When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Hello! Bienvenue dans le podcast Intention. Mais en fait, on parle de quoi dans ce podcast?
Et si on arrive juste à donner un peu de bon sens aux gens, pour moi, ça, c'est aller vers une alimentation plus saine.
Est-ce que vraiment, on doit encore vous répéter que nous, le rééquilibrage alimentaire a changé notre vie?
C'est en dehors de notre zone de confort que s'opère toute la magie de la vie. Et les amis, c'est tellement life-changing.
Montrer sur les réseaux qu'être entrepreneur, c'est archi chouette. Ça, c'est clair et net.
Donc en fait, tout revient toujours à l'alimentation. Encore une fois, c'est incroyable.
Notre santé, c'est 90% l'alimentation.
Ouais, c'est fou.
Et voilà, c'est ça l'ambition de notre podcast. Alimentation saine, épanouissement personnel, entrepreneuriat. On parle de tout ça sans filtre. Bonne écoute! Et bienvenue dans un nouvel épisode.
Coucou, au plaisir de vous retrouver.
Ça fait trop plaisir.
Toutes les semaines maintenant.
Ah ouais.
Attention.
Bon, c'est un petit rendez-vous là de la semaine. Alors bien évidemment là on est toutes les deux parce que voilà on se retrouve. En plus maintenant à Marisa vit à côté, vraiment à 10 minutes. On vit à 10 minutes l'une de l'autre maintenant.
Trop chouette.
Au fur et à mesure, il y aura des invités parce qu'on a beaucoup de choses qu'on a envie de partager. Et qu'on a envie de faire découvrir, par exemple, des personnes qu'on a découvertes récemment, qu'on a envie de leur donner la parole sur le podcast, aller plus loin, parce qu'on n'est pas experts en tout, pas du tout, loin de là.
Pas du
tout. Nous, quand on parle toutes les deux, c'est souvent pour parler de nos expériences à nous.
Des réflexions.
Des réflexions qu'on se donne, sachant qu'en plus, très souvent, les réflexions, c'est évident que vous aussi, vous avez. Et du coup, parfois, on a l'impression que quand on est seul à avoir une réflexion et que personne ne pense pareil que nous. Et c'est quand on écoute parfois des épisodes de podcast qu'on peut se dire « Ah, mais je ne suis pas la seule à penser ça. » Donc nous, c'est plus voilà, le côté nos petites réflexions, dont aujourd'hui, Marisa.
C'est ça, parce qu'en fait, si vous l'avez compris, parce que vous avez été très nombreuses à nous faire un retour sur notre premier épisode de podcast de 2022, sur justement ce bilan de la Digital Detox. Et vous avez, je pense, vous avez compris notre envie pour 2022, c'est vraiment de ce retour à la vraie vie. Je pense qu'intention, si demain il devait avoir une nouvelle baseline, tu sais, un nouveau, je sais pas, sous-titre, ou ce serait quelque chose de l'apologie de la vraie vie, quoi. Peut-être quelque chose comme ça, parce que je crois qu'on est arrivé à une saturation de ce jeu des réseaux sociaux, un jeu très insidieux qui arrive à faire avoir des comportements très particuliers, que ce soit nous en tant qu'acteurs des réseaux sociaux, donc la partie influenceurs, comme on va dire, que ce soit nous aussi, de l'autre côté des réseaux sociaux, la partie spectateur. Et donc, les deux derniers épisodes de podcast vous montrent un peu nos réflexions sur ce sujet, sur le côté « on ne veut plus utiliser le mot « healthy », on a pris aussi la réflexion de quel entrepreneur on veut être, quelle femme on veut être, etc. Et je pense que ça peut être important aussi pour vous. Je pense qu'on sera obligé d'y aller à cette, dans cette direction, de s'éloigner un petit peu de ce monde virtuel, même si bon, à cause de... C'est Mark Zuckerberg non, qui veut maintenant faire Meta, le truc
c'est déjà fait. Ouais.
Oui, c'est déjà fait. Donc, le truc virtuel, ça, c'est complètement, pour moi, hallucinatoire. Quoi. Ça, c'est... Nous, on va essayer de prôner, en tout cas, ce retour à la vraie vie. Et en fait, cet épisode de podcast, il m'est apparu dans la voiture, puisque ce week-end, j'ai déménagé. Je suis venue vivre à côté de chez Isadora et Mathieu et de mes parents, du coup, maintenant. Et j'écoutais pendant l'heure de trajet de mon ancienne maison à ma nouvelle maison, un épisode de podcast qui s'appelle Méta de choc. Un podcast qui s'appelle Méta de choc, qui en fait c'est tout simplement une abonnée Instagram qui a partagé en story notre épisode de podcast. C'était toute une série de mes podcasts du moment. Donc il y avait nous en premier et en deuxième il y avait Méta de choc, parce que oui, moi si vous me taguez sur une story, en général je vais regarder vos autres stories, je continue, je suis en fait, moi je suis curieuse, donc je regarde un peu le reste et j'ai vu en deuxième position Méta de choc, je ne connais pas et je suis allée écouter ça sur le coaching. C'était donc un épisode de podcast sur le coaching, les dérives du coaching, et ensuite j'ai regardé qu'ils ont aussi tout plein d'épisodes sur la parentalité positive et ses dérives, la sexualité, j'ai vu quoi d'autre, j'ai vu pas mal de trucs un peu intéressants. Et là, dans la voiture, j'écoutais cet épisode sur le coaching qui est juste, que je vous conseille, on vous mettra dans les notes, mais qui est incroyable. Si vous connaissez un petit peu cet univers du coaching,
les codes
de l'univers du coaching, et que ça vous, parfois ça vous chamboule, ça vous pose question. Et eh bien cet épisode, moi, il a exactement... Je me suis dit, enfin quelqu'un qui pense comme moi. C'est-à-dire que moi, tout ce que je pense depuis toutes ces années sur le coaching, j'ai quelqu'un qui détricote un petit peu tous leurs mécanismes. Et ça, je me suis dit, non, il faut qu'on parle d'un sujet-là en podcast. Il faut qu'on parle de ces choses dont on ne vous parle jamais. Ces choses que l'on vous cache. Parce qu'Isadora et moi, on a des discussions au quotidien. Dont on ne vous parle pas, parce que vous savez, nous, on est alimentation, bien-être, entrepreneuriat, et il y a des choses dont on ne vous parle pas, mais on a des avis. Donc voilà, on a dit qu'on allait parler de ça aujourd'hui avec vous, de coaching, de ces choses dont on ne parle pas, donc le coaching, la parentalité positive, bienveillante,
la spiritualité,
toutes ces choses, comme d'habitude, on va vous parler sans filtre, puisque nous avons été aussi, comment dire, appâté par certains...
Entre guillemets, j'irais même victime.
Victime, oui.
À un moment donné où on était plus
vulnérable.
En fait, les choses dont on va vous parler là, en effet, ces choses, parfois, vous nous posez des questions. Vous nous dites, les filles, est-ce que vous pouvez parler de maternité? Les filles, est-ce que vous pouvez parler d'entrepreneuriat? Et donc, généralement, on le fait et on va parler de façon plutôt... depuis ces dernières années, plutôt... Alors, je n'allais pas dire lisse, parce qu'on ne parle jamais de façon lisse, mais les choses...
Factuel. Mais surtout que la maternité, la vérité, c'est qu'on n'en parle pas.
On en parle très peu parce que c'est pas notre sujet déjà de base dans l'entrepreneuriat.
Sur les réseaux sociaux,
en règle générale. Et parce que il faut imaginer que notre cerveau, il est en ébullition. Mais on va vous le dire, on va vous expliquer pourquoi on n'en parlait pas. Parce qu'en fait, on savait même pas où est-ce qu'on en était, où est-ce qu'on est, quel truc on se situe. On va vous en parler.
La première chose dont on va parler.
Pareil, si Marza dit on vous a jamais parlé, oui. Vous voyez des choses parfois sur les réseaux. Je vais vous dire par exemple, j'ai acheté un coaching, j'en ai parlé moi sur mon compte Instagram à l'époque quand j'étais seule. Mais après, ça a été silence radio. J'en ai plus jamais parlé.
Oui. J'ai fait juste une story.
Ouais. J'ai fait juste une story. On m'a demandé plusieurs fois, Isadora, est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'a apporté ce coaching? J'ai dit rapidement non, c'était pas très intéressant, mais c'est tout. Mais on va aller plus en profondeur et on va vous dire vraiment aujourd'hui ces choses dont on ne parle jamais sur les réseaux, mais dont on parle beaucoup dans notre vie, toutes les deux, en famille, avec nos amis, avec nos proches, qui eux ne sont pas sur les réseaux et sont finalement spectateurs par notre biais. Parce qu'en fait, nous on va leur dire, vous savez, la parentalité positive, et puis ils vont nous regarder en disant à un moment donné... What the fuck? Qu'est-ce que tu me chantes? Mais on va y revenir.
Parce qu'en fait, tous ces sujets, même s'ils ont l'air complètement aucun rapport les uns avec les autres, ils ont une conclusion globale qui est, à chaque fois on va dire la même chose, mais ce retour à la vraie vie, ce retour au bon sens. Parce que les gens qui sont ancrés dans la vraie vie, qui sont loin de ces réseaux sociaux, ne connaissent pas déjà tout ça et nous regardent avec des yeux effarés. Tu t'es laissé embrigader par les propos. Tu les regardes, toi, en disant, mais tu sais pas, toi. Moi, je sais mieux que toi, parce que moi, je me suis formée, je me suis informée. Que toi, tu ne t'es pas informée, donc toi, tu fais partie de ces gens qui ne savent pas. Mais en vrai, après, avec du recul, tu te rends compte que tu t'es laissé complètement...
Contrôler.
Et donc, on va vous parler. On va commencer par le coaching. On va vous commencer par le coaching, puisqu'on va, on parlera de personne, on dira pas de nom. Mmh. On va faire comme dans Méta de choc. Je sais très bien de qui il parle, évidemment, puisque ce coach le plus célèbre du monde, ça fait 40 ans qu'il exerce, donc voilà, moi j'ai jamais compris ce type-là, comment il a cartonné, mais bon, ça c'est autre chose. Mais finalement, je peux le comprendre parce qu'on va vous expliquer pourquoi. Mmh. On peut parce que Isidore et moi, il faut savoir qu'on est personne, on nous la fait pas. On ne nous la fait pas, quoi. Oh. En général, nous, on connaît très bien les trucs du marketing, on est dedans, on sait très bien ce que c'est que vendre, etc. Donc, on est des filles plutôt solides d'épaule. On est des filles qui ont un entourage très fort. Donc, je pense que les gens nous regarderaient en mode « Attention, dérive, détendez-vous, les filles. » Donc, nous, on est plutôt des filles peu facilement
influençables
dans des trucs aussi puissants que le coaching, ouais. La spiritualité, la maternité. Ouais. Et donc là, Isidora, tu as parlé de ton expérience parce qu'il faut savoir que Isidora et moi n'avons jamais fait de coaching de notre vie.
Non.
Jamais on n'avait eu de coach dans n'importe quelle sphère de la vie. À une période donnée de notre vie professionnelle, dont on vous a parlé sur les réseaux, on était perdus. On ne savait plus.
C'était quand, moi ? C'était il y a un an.
Il y a un an.
C'était il y a un an. J'ai fait ça en novembre 2020.
Ouais.
Je crois. Un truc comme ça, ça devait être en novembre 2020.
C'est possible, ouais.
Que j'ai acheté une formation qui n'était pas donnée. Je pense que c'est là aussi quand j'ai dit à ma famille, à mon entourage, ouais. Le prix de la formation, où on m'a regardé en me disant, mais attends,
qu'est-ce qui vaut
3000
ça
boules pour des Zooms, pour des visios finalement.
Oui, oui. Une fois par semaine.
En groupe.
Oui, en groupe.
C'est pas 3000 euros où on va travailler sur moi. C'est 3000 euros où on est 15
oui.
À avoir donné 3000 euros. Hein. Et on va travailler tous ensemble sur chacun de soi. C'est déjà, faut se dire, c'est quand même...
Mais c'était bien mené parce que la personne, ce qu'elle disait, c'était, vu que vous avez sensiblement tous les mêmes problématiques, ce qui n'est pas faux... Écouter l'histoire d'un autre peut aider l'autre, ce qui n'est pas faux. En général, les coachings de groupe, ça peut être intéressant.
Ouais.
Donc c'est pour ça que tu t'es laissé appâter, parce que moi je t'aurais dit droit, mais c'est n'importe quoi, ne te fais pas avoir.
Bah,
mais
je me suis laissé appâter parce que c'était une période où
c'est ça qui est intéressant.
On travaillait beaucoup, beaucoup. On était devenus maman et on voulait tout faire. Ça, on l'a déjà dit, mais on le fera. Hein, on l'a déjà dit. On voulait être les entrepreneurs à succès sur les réseaux. On voulait être la maman parfaite, la belle maman en plus parfaite. Quand la belle fille elle arrive, tout doit être nickel.
La ménagère parfaite
et la femme, la compagne parfaite, etc. Donc à un moment donné, j'avais la tête, mais d'où en 2021 où ça a été vraiment une année qui a été très difficile pour nous. Mais ça avait déjà commencé, bien évidemment, fin 2020. Et cette personne, sur les réseaux, montrait comme quoi un business, ça aussi on en reviendra sur ce mot que je ne supporte plus, d'ailleurs qu'on n'a jamais utilisé nous-mêmes, business, c'est vraiment un terme qu'on n'aime pas, montrait comme quoi un business peut être
simple,
léger, qu'on peut avoir beaucoup d'argent finalement
sans rien faire,
en travaillant très peu, que le but c'était pas le travail, c'est-à-dire faire... tout le temps plein de choses, mais c'était plus quel partage que tu vas faire. Et si c'est qu'une heure dans ta semaine pour 3000 fois 15, c'est super. Donc moi, finalement, comme j'étais dans une période où on travaillait beaucoup, j'ai pris ce coaching.
T'étais fatiguée.
J'étais crevée.
Remise en question.
Remise en question sur mon entreprise. Est-ce que je fais les bons choix, etc., etc., etc.
Tu vois une personne qui est
solaire,
pimpante, comme toi tu aimes, en fait. Elle te correspond.
Oui.
Nous, on est dans une période de vulnérabilité. On a regardé tous ces lives. On était complètement...
Matrixés.
On était in love, quoi. Mm. Et donc, c'était le gage de confiance. Elle a une vie tellement parfaite, puisque ces personnes-là, il faut savoir qu'elles rarement montrent leur point un peu de vulnérabilité à elles, ces personnes. C'est très rare. Et quand ils le font, ils te racontent une histoire d'il y a 20 ans, qui est passée il y a très, très longtemps. Ils racontent jamais les difficultés qu'ils rencontrent dans le moment présent. Donc c'est toujours compliqué. Donc nous, Isidore et moi, on s'est laissé complètement embrigader par cette personne. On voulait être elle, en vrai. C'est ça, c'est ça qui est vraiment là. Et c'est pour ça que c'était intéressant de faire cet épisode de podcast, pour le parallèle avec cet homme-là dont parle Méta de choc. Puisque clairement, les gens, c'est ça qu'ils veulent. Les gens ne veulent pas forcément. En fait, si, toi, tu crois que t'es partie parce que tu veux changer ta vie, mais au fond de soi, c'est « je veux être cette personne ».
Je veux avoir son mode de vie. Je veux avoir sa vie où elle peut voyager sans avoir le stress de son travail. Parce que nous, bah, finalement, on voyage peu. On faisait peu de choses puisque on se donnait finalement à notre métier. Pas avec regret. Hein. Nous, on aime ce qu'on fait énormément. On s'est pas rendu compte que insidieusement, à force, bah, comme on disait dans le premier épisode, fin de l'année, bah, au fur et à mesure, ton énergie, elle diminue parce que tu ne fais que donner ton énergie tout le temps.
Et on se mettait trop de pression aussi. Ouais.
On se mettait trop de pression. J'ai pris ce coaching, 3000 euros.
Là, j'avoue que tout le monde dans la famille a grincé des dents.
Ouais, tout le monde. Sachant qu'en plus, nous, on est entouré quand même par des personnes qui sont dans le milieu du bien-être, plutôt dans le côté thérapeute. Donc, on a notre grande sœur qui est diététicienne. Donc, vous pensez bien qu'une diététicienne ne fait pas payer 3000 euros une consultation. Elle travaille en plus en psychiatrie. Donc, pareil, en psychiatrie, on ne fait pas payer 3000 euros pour enlever tes problèmes de mal-être avec toi-même ou de confiance en toi. Et on a également bah, des thérapeutes autour de nous qui, eux, m'ont dit bah, « En fait, c'est quand même hyper cher pour améliorer sa vie. Quand tu vas voir un thérapeute, c'est genre quoi ? Allez, 60 balles le max de la séance, quoi. » Mais moi, non. Moi, en plus, moi, je suis très obtus. Donc, j'ai décidé ça, je vais le faire.
Sachant que quand t'es dans cette phase de vulnérabilité, on n'oublie pas que la personne, je vais trop loin en disant le mot secte, mais tu sais, c'est ce genre de dérive. C'est que toi, quand tu y es dans ce moment-là, tu ne veux pas que les autres autour de toi te disent quelque chose, te mettent face à la réalité. Tu es dans ton truc.
J'ai dans mon truc.
Et moi, j'y croyais avec toi, puisque on est dans ce truc. Moi, j'ai pas payé, mais j'y croyais avec toi parce que on est dans ce truc des réseaux sociaux, ça se fait.
Oui.
Pourquoi, après tout, c'est vrai que on vous entendait l'abondance, l'argent, ça s'attire. En soi, pourquoi ne pas demander 3000 euros ? Il y aura toujours quelqu'un qui pourra les acheter. Enfin, t'entends tous ces trucs-là au quotidien, t'y crois.
Ouais.
Et tu te poserais même les questions, pourquoi moi, finalement, je devrais pas faire des coachings aussi si cher ? Elle a raison.
Ouais.
Mais t'es à fond dedans.
T'es à fond dedans.
Ouais.
Pour tout dire, ça n'a duré que l'histoire de, je pense, 2 séances.
Ah, déjà, la première séance, ouais. La première séance, tu m'avais appelé, j'étais contente.
Ouais. La première séance, j'y ai cru, même si même Mathieu, qui était avec nous juste avant qu'on fasse l'épisode, était mort de rire. Parce que lui, les jours de ses visios, il était à la maison. Donc, il m'entendait parler. Et il entendait cette personne parler. Et à chaque fois, il me disait, mais attends, c'était 2 heures de néant. Ouais. Parce qu'il entendait, il était dans le canapé, lui, allongé dans le canapé, et il m'écoutait. Et très vite, moi, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire ? Parce qu'il faut imaginer, et c'est souvent comme ça dans les coachings, moi, je le vois beaucoup comme ça, c'est taper tes 3000 balles, on est 15 autour d'une table, la coach te pose une question, ce que Mathieu m'a résumé tout à l'heure, elle te posait une question, je sais pas, comment ça va aujourd'hui ? Chacun va parler pendant, je sais pas, 15-20 minutes de comment il se sent dans son travail. Et bah, au bout de 2 heures, bah, la séance est terminée. Et puis on te donne un petit exercice à faire à la fin. Un petit exercice pour la semaine prochaine, vous faites tel exercice, je sais pas, moi, respirer tous les matins. Et puis on se revoit la semaine d'après. Et puis, alors comment s'est passé le fait de respirer tous les matins ? Chacun y va de son truc. Et moi, très vite, on est deux, en vrai. On est deux dans cette formation.
Il faudra qu'on l'interviewe, je pense. Ouais, parce que c'est trop drôle. Parce qu'elle est trop drôle.
Elle est très, très drôle. Très vite. On était un peu toutes les deux dans le même délire de se dire « Mais attends, c'est pas un peu bullshit tout ça ?» Et très vite, on s'envoyait des textos, des messages, on s'est appelés. On est resté une fois 3 heures au téléphone ensemble. Mais elle était plus loin que moi, puisque tellement elle a trouvé ça bullshit qu'elle a demandé un remboursement. Elle m'a dit « Vas-y, fais-le toi aussi. » Moi, j'ai pas osé demander, donc bon, bref. Donc moi, j'ai pas fini, j'ai jamais fini ce coaching. Hein. J'ai jamais fini, j'ai dû faire, je sais pas, 5-6 séances, et le reste a duré 3 mois, j'ai dû faire 1 mois et demi.
Mais ce qui est intéressant, moi, dans ce coaching, c'est ça, ce qui m'a vraiment, mais le plus, c'était incroyable pour moi, parce qu'aujourd'hui, j'ai du recul, parce qu'on est sorti de cette phase de vulnérabilité avec Isadora, dont on va vous parler ensuite pour la parentalité positive, vous inquiétez pas, parce qu'on n'a pas de honte à avouer qu'on est des êtres humains, des êtres humaines, comme vous, et qu'on se fait avoir comme vous, mais que nous, Isadora et moi, on croit fortement au bon sens, à l'humanité, aux gens bons, vous voyez, aux gens qui ont sincèrement, qui veulent du bien. Parce que moi, aujourd'hui, dans ces trucs de coaching, de business dont on parle, on ne parle que d'argent. Le but aujourd'hui, quand on vend des trucs, c'est de vendre pour gagner de l'argent, de vendre pour vous faire croire que vous allez perdre du poids. vendre pour vous faire croire que vous allez garder votre conjoint jusqu'à la fin de votre vie. Vendre pour que vous attiriez à vous votre prochain conjoint. Enfin, où est l'humain ? En fait, derrière tout ça, il n'y a plus d'humain. Et ça, c'est vraiment, je pense, vraiment un biais des réseaux sociaux, vraiment ce que je vois. Mais moi, ce qui m'a vraiment le plus intriguée, c'est que toi, tu t'es très vite rendu compte que c'était du bullshit. Parce que finalement, la personne, elle venait, quand elle n'arrivait pas en retard, elle venait en pyjama à peu près. Oui. Elle prenait son café, elle vous écoutait parler, elle ne vous disait pas trois mots. Et puis, c'était fini. Mais moi, ce qui m'a hyper impressionnée, c'est les gens autour.
Ça, c'est fascinant.
C'était hyper fascinant. Qui, eux, ne buvaient toutes les paroles, pourtant moindres paroles, si peu de paroles, de cette personne. Mais ils la portaient au nu. Parce que pour eux, c'est des personnes qui étaient... qui voulaient être entrepreneurs, c'est des personnes qui, globalement, ne l'étaient pas encore.
Non.
C'est globalement des personnes qui ont demandé à leurs parents de payer pour eux, ou qui ont trouvé de l'argent d'une façon ou d'une autre. En tout cas, ils n'avaient pas les fonds. Donc, comme ce n'est pas leur argent à eux, propre, bon, en soi, ce n'était pas non plus très, très grave de faire ce type de coaching, parce que quand tu mettais 3 000 euros, toi, enfin...
T'espères quand même avoir
un retour sur investissement. Ça, c'est des gens, souvent, tu me faisais comprendre que c'est des gens qui... majoritairement, n'ont pas payé eux-mêmes. Ils ont trouvé papa, maman, etc. Et c'est des gens qui voulaient se lancer et comme par hasard, tous voulaient être coach. Et c'est ça qui me tue parce que dans l'épisode de podcast Méta de choc, il disait, le mec, que dans ce séminaire de ce mec-là américain où ils étaient plus de 10 000 personnes dans cet amphithéâtre, enfin ce stade, quoi, il disait ce qui est incroyable, c'est que tous ces gens voulaient devenir coach aussi. C'est comme si pour pouvoir parler de bien-être aux gens, pour pouvoir sauver les gens, il fallait se sauver soi-même. Est-ce que ça montre pas déjà un truc qui particulier?
Et puis surtout, ce qui prouve aussi que, comme tu disais tout à l'heure, on n'est plus dans spécialement l'humain, puisque les gens ont bien compris que le coaching est un business très rentable.
Oui, très très.
Puisque vous voyez bien, 3000 euros x 15, ça fait 45 000 euros.
Elle en fait tous les 3 mois.
Ça fait tous les 3 mois, ça fait quand même un beau chiffre d'affaires.
Ouais.
Donc on n'est plus dans le « je veux absolument aider mon prochain ». Parce que si vraiment tu voulais l'aider, tu mettrais les prix un peu plus bas. Mais
bien
ça,
sûr,
ça c'est un autre délire. Parce que je sais qu'il y a des entrepreneurs qui doivent être coach avec des gros prix comme ça, qui doivent nous dire, qui doivent se dire, mon Dieu, c'est pas vrai ce qu'elles disent. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Parce que c'est 3000 euros pour moi de néant.
Oui. Parce qu'il n'y a aucun support.
Il n'y a aucun support. Tout le monde parle pendant à peu près 20 minutes. Mais ma prise de parole est donc de 20 minutes pour 3000 euros. On ne me dit pas plus que ça après. On me parle pas à moi, Isadora. On parle au groupe. Donc parfois, en plus, moi, je me disais à chaque fois, je me sentais pas à ma place, puisque j'étais la seule de ce coaching à avoir une entreprise qui existe depuis des années et qui a un chiffre d'affaires. Moi, je suis pas venue pour qu'on me parle de comment avoir un énorme chiffre d'affaires. Et souvent, les coachings, en tout cas dans ce milieu aussi entrepreneuriat, etc., la base, c'est comment faire pour avoir de l'argent. Et des phrases, moi, il y a plein de phrases qui m'ont choquée pendant ce coaching, comme par exemple, on est en plein confinement en ce moment, c'est maintenant ou jamais qu'il faut créer votre business coaching, parce que les gens, ils ne dépensent plus rien, ils sont chez eux, ils ne dépensent plus rien, plutôt que qu'ils dépensent, je ne sais pas moi, dans un... Comme ils ne peuvent plus aller voyager, ils ne peuvent plus aller au ski, ouais, c'était ça. Comme ils ne peuvent plus aller au ski, ils ont bien 3000 euros à dépenser. Ou, et ça c'était le truc, mais ça m'a fait bondir, à l'intérieur de moi, hein, c'est quoi qu'il arrive, quand quelqu'un veut travailler sur soi, ils peuvent trouver de l'argent, même 3000 euros ils pourront le trouver, quitte à faire un emprunt, etc. Et là, je me suis dit, donc en fait, on prend 3000 euros de ma poche, on s'en fout de savoir d'où vient cet argent, hein, on s'en fout. Le principal, c'est que tu payes. Le principal, c'est qu'après, on puisse, comme ça a été dit dans la formation, c'est de se dire qu'à la fin, moi, de mes coachings, je me récompense en allant dans le 8e arrondissement à Paris pour m'acheter des trucs quartier, etc. Et donc là, moi, très vite, j'ai appelé Marisa en lui disant « Mais en fait, là, on ne me parle pas de comment moi être plus épanouie dans mon travail, comment gérer mieux mon temps, etc. » Non, on me parle de comment je vais pouvoir... prendre l'argent de vieux pigeons qui sont mes clients, en fait.
C'est ça.
Et en plus de ça, moi, j'étais la seule avec des prix ridicules, on m'a sous-entendu. Puisque nous, notre formation, pas du tout, notre plateforme, elle a 32 balles.
Ouais.
Quand je suis face à des personnes qui vendaient des coachings à 4 000 euros, 5 000 euros. Et donc moi, je suis là, un peu l'extraterrestre qui soutient qu'elle ne mettra jamais, et vous m'entendez bien, jamais, à moins que vraiment il me soit... Alors si ça arrive, dites-vous qu'on m'a matrixé, d'arriver à vendre des programmes à 1000 balles, à 500 balles, même ça... Même, on a,
non, pas du tout. Non.
Parce que nous, on est persuadés qu'on peut changer de mindset, on peut changer de façon de voir son hygiène de vie, on peut changer plein de choses dans sa vie, ne serait-ce qu'en allant voir un thérapeute.
Oui, en étant accompagné.
L'accompagnement,
il est pour moi très, très, très nécessaire et important dans la vie. On peut rarement réussir seul, on peut rarement... Il y a des prises de conscience qui se font
en communiquant
avec quelqu'un. Donc moi, l'accompagnement, il est nécessaire dans la vie. Je trouve ça top, les accompagnants. Et il y en a de très, très bons. Moi, là où l'accompagnant commence à me poser des questions, et d'autant plus maintenant qu'Isadora a eu cette expérience avec ce coaching, et ensuite, j'ai écouté l'épisode de podcast Méta de choc, qui, moi, m'a encore plus montré... j'ai eu l'impression, déjà, je savais très bien que cet homme-là, de toute manière, moi, j'avais mon avis sur lui depuis des années, toi aussi, hein. J'avais regardé le reportage, les 15 premières minutes sur Netflix, j'avais été choquée. Je comprenais pas, j'arrive toujours pas à comprendre comment ce type est adulé. Et je sais que ce type-là est énormément suivi aussi par des coachs français qui suivent exactement son mouvement, cette façon de faire qui est complètement pour moi limite sectaire. Franchement, j'ai pas peur de là pour le coup de le dire. Là où l'intervenant, le coach devient problématique pour moi, c'est quand derrière il y a une sorte d'idolâtrie de sa personnalité. Ça veut dire que le coach n'apporte rien en vrai comme outil.
Comme contenu.
Mais juste être lui suffit, puisque le but, c'est qu'il vende qui il est. Sa réussite à lui. Le but, c'est qu'il vende, en fait, sa vie. Faire croire aux gens que si vous payez je vous propose comme tarif, vous deviendrez moi. C'est ça le message sous-jacent. Et si, en fait, tu n'arrives pas à devenir moi, c'est tout simplement parce que tu t'es pas donné assez. Et donc, tu as encore besoin du chemin pour travailler. Donc, je te refais un autre coaching. Parce que moi, ce qui m'impressionne, et ça, c'est un truc qui me rend ouf, à chaque fois dans tous ces coachings que je vois sur les réseaux, c'est de me rendre compte qu'à chaque fois que ces coachs font des lives sur Instagram, puisque vu que c'est des gens en général qui n'ont pas envie de travailler, font des lives, c'est plus facile que faire des vidéos YouTube, etc., écrire des articles, montrer plus que ça. Donc faire des lives sur Instagram, c'est le bon filon pour un coach. En général, ils font des lives sur Instagram, puisque voilà, ils posent la caméra, ils font leur blabla, où ils ne parlent souvent que d'eux, parce qu'eux, ils savent tout faire. Eux, ils ont la clé du bonheur. Eux, ils ont la clé du bonheur, de la réussite,
ils sont pas
de
comme
l'abondance.
Nous, de nos 34 ans à cheminer encore jusqu'à la fin de ma vie, quoi.
Ils cheminent plus. Non. Ils ont trouvé. Ils peuvent même mourir immédiatement parce que là, ils cheminent plus, eux. Donc, comme les gens aujourd'hui, ils ont cette impression qu'il faut cette clé. Oui. Il y a quelqu'un qui la détient. Donc, ça peut être Pierre, Paul, Jacques. Ça peut être l'écrivain qui a écrit un livre. Donc, je vais en lire 25 par jour de livres de développement personnel parce que la clé est quelque part. Et donc, tu passes de déception en déception parce que finalement, la clé ne l'est pas.
Mais tu passes de trou dans ton compte en banque à trou dans ton compte en banque, quoi.
Et ce qui me tue à chaque fois avec ces gens-là, c'est que ces coachs, quand ils font des lives, moi, j'en regarde de temps en temps parce que vraiment, aujourd'hui, j'ai été pendant une période de ma vie l'année dernière très friande de ça, limite je me le réveillais le matin, il fallait que j'écoute ces lives pour que ça me fasse du bien et je me dis ça me mettait du baume au cœur. J'ai jamais acheté quoi que ce soit d'eux, mais je bouffais tout leur contenu gratos parce que justement, n'oubliez pas la vulnérabilité. C'est des personnes qui parlent à votre vulnérabilité. Il y a toujours un moment donné dans notre vie où on aura un moment de un peu de faiblesse, c'est normal, de fragilité, de questionnement, de doute. Et donc, c'est dans ces moments-là que bim, tu rencontres une personne, elle rentre dans ton monde et ça y est. Toi, t'as laissé ton PEL pour ça et en fait, t'as rien derrière. Et moi, ce qui me tue, c'est que dans ces lives-là, je vois les gens qui rentrent en interaction avec ces coachs. Ce sont des gens qui ont acheté toutes les formations de ces coachs. Ouais. Donc moi, je me dis toujours, ça veut dire qu'ils ont eu un coaching, une formation, ça n'a pas suffi. Parce que la clé n'était toujours pas dans cette formation. Donc,
moi, je me dis, évidemment, l'accompagnement, c'est nécessaire, j'y crois à fond. C'est vraiment quelque chose qui est... Moi-même, hein, et même toi, Isidora, si t'étais pas accompagnée, si t'avais pas vu d'hypnothérapeute à l'époque, si t'avais pas vu d'acupuncteur...
Ah ben non,
voilà.
J'ai eu besoin. Moi, j'ai besoin de l'accompagnement, et bien évidemment qu'il est nécessaire.
Mais faites attention juste...
Mais on peut-être que c'est ça aussi le problème. C'est qu'aujourd'hui, le coaching, qu'il soit entrepreneurial ou bien-être... est un business.
Oui.
Tout le monde utilise ce terme-là. C'est devenu un business.
Oui.
Le naturopathe, le psychiatre que tu vois, lui, il se permet pas de dire 33 000 euros une consultation.
Oui. Donc, sauf certains... Maintenant, la naturopathie, maintenant, c'est en vogue aussi.
Oui,
donc,
c'est vrai. Oui. Bah, ça aussi. Bon, oui. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais rarement, quand on va dans une ville et qu'on prend, je sais pas, sur les pages jaunes, le sophrologue du coin... Lui, il va pas vous demander 3000 euros et il va pas du coup aller après à Paris, dans le 8e arrondissement, s'acheter des bacs quartiers
pour vous remercier.
Pour féliciter. Voilà. Non, parce que son truc, ça coûte 60 balles, remboursé parfois par la Sécu ou pas. Et déjà, ça nous paraît déjà énorme, 60 euros, hein, pour aller voir un sophrologue. Hein. Ouais. Moi, on dépensait de l'argent. Hein,
pour je suis partie voir un hypnothérapeute il y a le mois dernier.
Oui.
90 balles.
C'est cher, quand même. Donc, c'est pas donné, c'est pas remboursé, mais c'est déjà pas donné.
C'est pas 3000 euros.
Mais c'est pas 3000 euros. Et pourtant. Ils nous accompagnent.
Oui.
Ils sont dans le bien-être. Oui. Ils sont pas dans le « je veux créer un business qui va me rendre riche ». Aujourd'hui, quand on parle de coaching, que ce soit entrepreneuriat ou bien-être, c'est les deux seuls que je connais, mais sûrement d'autres. Hein, mais en tout cas, moi, dans mon domaine, c'est les deux seuls que je connais.
Le but, c'est l'argent.
Le but, c'est l'argent. Le but, c'est mon business. Et moi, quand j'entends des personnes qui... des coachs bien-être utilisent toujours le mot « business », ça me pose question parce que je me dis... Mais business, c'est censé être quelque chose de... Enfin, pour moi, j'imagine limite McDonald's. J'imagine des franchises. J'imagine une espèce de grosse... Quand j'entends business, je n'entends pas aider l'autre.
Oui, j'entends pas d'altruisme, ça c'est sûr.
C'est ça, j'entends pas ça. J'entends pas, je veux aider mon prochain, je suis...
Regarde, business est un anglicisme qui signifie affaire, activité liée aux affaires... commercial dans le but de générer le maximum de profit.
Voilà.
Voilà. Donc moi, quand quelqu'un me dit, t'enrobe, le mot business à base de spiritualité, de je vous aime, abondance, à base de je suis là pour vous, je vous guide, je vous tiens par la main, c'est faux. Moi, moi, j'avoue que le mot business, pareil, c'est vraiment un mot qui ne me convient pas du tout parce que justement, c'est le maximum de profit. L'humain, on s'en fiche de vous. C'est ça que vraiment faut comprendre. On s'en fiche de vous.
Ce qu'on veut,
c'est votre porte-monnaie.
C'est ça. Ce qu'on veut, c'est que vous dépensiez votre argent pour remplir mon propre porte-monnaie pour pouvoir ensuite aller à Bali, à Dubaï, au Portugal ou je ne sais où. C'est tout ce qui compte. Et moi, c'est ça que dans ce coaching, et pourquoi je dis tout ça, c'est parce que j'ai eu la réflexion depuis cette dernière année où j'ai fait ce coaching, où ce qui est dit à l'intérieur, moi, ont été problématiques pour moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'arrêtais ce coaching, enfin, une fois que c'était fini la séance, à chaque fois, je disais des choses qui m'ont choquée. Des personnes qui disent « Oui, mais moi, telle personne, elle a payé mon coaching à 4000 euros. » Alors qu'elle c'est une mère célibataire, par exemple, une qui avait dit ça. Une cliente m'a payé. C'est une mère célibataire qui galère tous les mois pour subvenir à ses besoins et aux besoins de sa fille, mais qui a pris dans son plan épargne ses 4000 euros en espérant qu'une fois qu'elle aura fini ce coaching, elle puisse créer sa propre entreprise de coaching et être comme ce coach, c'est-à-dire gagner 45 000 euros en une seule fois. À aujourd'hui, de ce que je vois aujourd'hui, on en est loin. Mm. Et pourtant, elle a quand même pris dans son plan épargne qui est pour sa fille. Et ça, je me dis, où est l'humain ? L'humain serait, attendez, je vous donne 30 balles. Mais non, parce que qu'est-ce qu'on dit dans ces trucs de coaching ? Qu'est-ce qu'on dit ? Nous, c'est 32 euros. Oui, et ça n'ira jamais à des 100, 300, 600 euros. D'ailleurs, comme disait mon conjoint tout à l'heure, et comme disait autrefois une de nos freelances, les filles, vous pourriez aller tellement plus loin, gagner tellement beaucoup plus en vendant plus.
Mais si nous, le mot business... était vraiment le fait de vouloir faire du grand profit, ou même encore mieux, la définition du business, affaire embrouillée et douteuse.
Oui, c'est ça.
Mais qu'est-ce que c'est que ce business ? Eh bien, si nous, on avait vraiment envie, dans notre vie, de générer le maximum de profit, vu la communauté qu'on a réussi à créer autour de nous, que sans, en toute humilité, on est des personnes, on sait qu'on a une certaine, comment dire, on sait que quand on parle de quelque chose, vous êtes extrêmement nombreuses à aller acheter. On sait que les marques, en général, quand elles travaillent avec nous...
Ou pas, d'ailleurs, même pas. Même celles qui nous travaillent, même pas
avec nous. Voilà. Nous disent, oh là 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 là, mais vous avez une, mais un pouvoir, ce qui est incroyable. Mais nous, on n'en a jamais joué, parce que vraiment, même à chaque fois, Samuel, il me le dit tout le temps aussi, Mathieu nous le dit tout le temps, si on avait voulu être, mais vraiment... Je sais pas, si on avait voulu vivre à Bali, avoir une maison, je ne sais pas où, une putain de belle baraque... Mais là, aujourd'hui, on pourrait. Parce qu'on sait qu'on a votre confiance. Quand toi, tu disais tout à l'heure qu'à chaque fin de session, tu n'étais pas en accord, parce qu'en fait, ce que les valeurs prônées dans cette formation n'étaient pas les tiennes. Ta valeur n'est pas l'argent, toi. Ta valeur, toi, c'est l'humain. Toi, ta valeur, tu veux aider les gens. Donc toi, quand t'arrives en disant, mais moi, c'est... je propose des trucs à 32 euros, elle te regarde. Ok, tu sais que tu pourrais demander beaucoup plus, hein. C'est ce qu'elle te disait.
C'est ça.
En fait, c'est que scale.
Ce qui est fou dans le coaching, c'est que on te dit que si toi tu veux être coach un jour, que tu n'as pas besoin d'avoir une grosse communauté.
Oui.
Tout le monde peut gagner autant que moi. Avec une toute petite communauté, tu peux gagner autant. En revanche, bien évidemment, bah il faut que tes prix soient très hauts, parce que dans ce coaching qu'on avait, on était 15. Et la plupart avaient des produits, par exemple, à, je veux dire, 4000 euros. Et quand on leur disait, alors, t'en as vendu combien de ton coaching ou de ta formation que t'as créé? Bah, un. Bah oui, parce que 4000 euros, c'est pas 1500 personnes qui vont y aller. Hein.
Mais surtout, il faut vraiment comprendre que les gens... Parce que je veux pas qu'on parle trop longtemps du coaching, parce qu'après, on doit parler d'autres sujets, mais comprenez...
Bah, ça fait déjà, j'ai envie de te dire, 35 minutes, Marisa.
Ah voilà, merde.
C'est chaud, hein.
Ah oui, bon. Alors, ce sera peut-être en deux épisodes, du coup. mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que... Si vous êtes dans une période de fragilité professionnelle, notamment, mais les coachings, il y en a pour tout le monde, mais là, on va parler professionnel comme ça, ça évitera de trop s'éparpiller. Posez-vous la question, est-ce que ce coach, comment dire ?
Moi, je dirais, est-ce que ce coach se met lui-même en lumière ?
Voilà, tout le temps.
Est-ce que c'est sa personne qui vend ?
Voilà.
Ou est-ce que c'est...
Sa vie,
voilà. Ou est-ce que c'est son contenu, ce qu'il y a à l'intérieur ? Est-ce qu'on vous parle vraiment de ce que vous allez pouvoir... quelque part changer dans votre vie, transformer, etc. Ou est-ce qu'on ne parle que de moi?
Oui.
Que les photos, par exemple, ce soit toujours que moi,
sur Instagram,
moi. Là, déjà, je me dis, bah, en fait, moi, je m'en fous de toi, de ta beauté, de à quoi tu ressembles, etc. Ce que je veux, c'est que tu m'aides, que tu m'accompagnes. Moi, quand je vois mon hypnothérapeute, je vais te dire qu'elle soit bien habillée ou quoi, c'est chouette. Mais moi, ce que je veux, c'est que... elle travaille sur moi.
Oui.
Je veux pas qu'elle soit avec ses montres Cartier ou je ne sais pas, je m'en fous.
C'est ça. Moi, je pense qu'il faut vraiment que vous regardiez si la personne, elle est son centre de son propre monde. La meuf, elle est, ou le mec, peu importe, ils sont très nombrilistes. S'ils sont de très bons orateurs, en général, c'est de très très bons orateurs. Donc méfiez-vous des très très bons orateurs. Méfiez-vous de nous.
Bah, j'allais dire, on est l'opposé des bons orateurs.
Oui, c'est-à-dire qu'on parle vite,
on parle vite, on fait des
Oui.
On va dans tous les sens.
On va dans tous les sens, oui, c'est vrai qu'on n'est pas très...
On fait une conversation.
Oui. Donc bref, le coaching, il fallait qu'on vous parle de ça parce qu'il fallait qu'on fasse ce bilan après qu'Isadora ait fait plutôt après qu'Isadora a fait, d'ailleurs, c'est plus français, après qu'Isadora a fait cette formation. Peut-être qu'on vous en dira plus, mais c'était incroyable. Ça, franchement, c'était vraiment une bonne expérience.
Ouais, c'est une bonne expérience. Ça fait longtemps que je voulais en parler, mais je pense qu'il faut, comme pour tout, moi, j'aime bien avoir le recul après. Et quand t'as le recul et que tu vois après tout ce qui se passe sur les réseaux, parce que les coachings, de toute façon, c'est l'Eldorado, hein, c'est devenu
bien sûr.
Depuis quelques années. Si tu veux faire le max de fric, tu deviens coach.
Mais en fait, on vous fait croire que vous pourrez être coach vous aussi, même si tu as 2 abonnés. Mais je peux vous assurer que non. Isadora, les 15 personnes, les 14 personnes avec qui tu étaient en galère totale, n'avaient pas
tout
de clients.
Ouais.
Okay.
Et c'était à savoir, parce qu'on ne le voit pas quand on les suit sur les réseaux, on pense bien, quand je les voyais, qu'ils gagnaient bien leur vie, qu'ils vendaient toute la formation. Mais à chaque fois qu'on me demandait « Alors, combien t'as vendu ce mois-ci ? Combien d'années ?» C'était soit 1, soit en larmes, 0.
Bon, bah oui.
Non.
Il faut travailler. Le travail...
La seule personne qui a gagné dedans, c'est pas le coaché, c'est la coach.
Ah oui.
La seule personne qui a gagné, c'est ça.
Mais peut-être qu'on fera un autre épisode aussi sur ce culte de la personnalité, parce que ce qui était vraiment très intéressant, mais je ne veux pas en parler trop longtemps, mais sur quoi ça peut être un épisode de 2 heures, qu'on s'en fiche en soi.
Si on s'en fout. Je pense que ce serait quand même intéressant de prendre quelqu'un, tu vois, par exemple, justement, avec qui j'étais dans le coaching.
Oui.
Ce serait intéressant de prendre quelqu'un qui a déjà fait des coachings comme nous et qui en parle aussi.
Oui, ouais. Parce que moi, ce qui m'a vraiment impressionnée dans ce culte de la personnalité, c'était vraiment... Moi, j'étais vraiment... Mais c'était époustouflée de ce génie, finalement. C'est que... Tenez-vous bien, attachez vos ceintures. Parce que les gens ont payé 3000 boules...
Ah oui, non, mais ça, c'est le meilleur. Attends. C'est le meilleur chose que tu vas dire.
Les gens ont payé 3000 boules. Ils étaient tellement en pamoison devant cette personne que c'était à base de bouquets de fleurs qu'elle recevait. Alors ça, moi, j'étais sidérée parce qu'elle était tellement exceptionnelle. Les gens... Mais je me souviens qu'il y en a une qui avait pleuré.
Ouais.
J'étais pas, mais ils auraient raconté tout.
Ouais.
Donc, ils étaient en mode bouquet de fleurs et... Bon, ils auraient raconté. Qu'est-ce qui se passe à la fin
du coaching. Et ça, c'est le plus merveilleux.
Et c'est là où tu vois vraiment le côté vicieux.
Oui, c'est ça. À la fin du coaching, on reçoit un mail... de l'assistante, pas de la personne, pas du coach, bien évidemment. Le coach ne travaille pas, puisque le coach, son but, c'est de montrer à quel point je peux gagner de l'argent en faisant le moins d'efforts possible. C'est ça qu'on veut nous véhiculer. On est dans un monde, de toute façon, où on bannit tellement le travail qu'on en fait... Plutôt que de dire, on travaille et on aime son travail, dire qu'on se lève le matin, on trouve que notre travail, il est chouette, on préfère dire, nous, on ne travaille pas, on va gagner plein d'argent, mais pour ça, il faut être un petit peu quand même malhonnête, un petit peu jouer avec la sensibilité des gens, parce que sinon, non, dans la vie, je suis désolée, l'argent, ça tombe pas du ciel, même si on vous fait croire que l'abondance, tu vas y penser très fort et tout l'argent va tomber du plafond, ça n'est pas encore arrivé.
Mais c'est vrai que derrière le travail, il est hyper dévalorisé aujourd'hui, parce qu'on dit aux gens que maintenant, c'est mieux de ne pas travailler mais de gagner plein d'argent, plutôt que dire aux gens plutôt, est-ce que ce ne serait pas l'occasion de trouver ce qui te convient, ce qui te parle à toi, plutôt que d'essayer de juste... En fait, moi, c'est le côté argent qui me pose problème.
Côté argent, ouais. Alors que nous, dans un mood, en soi, mais en France, on fera un épisode de podcast bien plus tard dans l'année, on est plutôt dans un mood de se dire, peut-être travailler un peu moins pour profiter de nos vies de famille, de la vie. Et limite à se questionner sur est-ce qu'on baisserait pas nos salaires.
C'est ça.
Nous, on est dans un mood, là, on est dans un questionnement. Ouais. On reparlera seulement en automne, mais on est plus dans ce côté, est-ce qu'il n'est pas temps de, je sais pas moi, aller dans une maison plus petite, payer un peu moins de loyer, vivre avec moins d'argent, entre guillemets, pour profiter de la vie. On est à contre-courant de ce qui se passe sur les réseaux en ce moment.
Ouais.
Enfin bref. Du coup, à la fin du coaching, qu'est-ce qu'on reçoit? Un mail de l'assistante.
Pas d'elle, évidemment, qui n'a jamais osé vous le dire de vive voix à la fin.
Bien sûr que non.
Évidemment.
Disant que voilà, le coaching s'arrête et que vraiment, on est très triste. C'était un super groupe parce que c'est toujours les meilleurs. On a toujours... Moi, je me suis sentie limite, pas du tout, parce que ça fait déjà longtemps que je n'y allais plus. Mais je comprends que les personnes se sentent un petit peu valorisées. Vous étiez limite le meilleur groupe. C'était franchement, avec vous, j'ai grandi. etc. Et est-ce que ça vous dit, est-ce que vous pourriez faire chacun de votre côté une vidéo pour dire qu'est-ce que le coaching vous a apporté, qu'est-ce que ce coaching ensemble vous a apporté? Moi, mon réflexe, c'est que je réponds direct en disant que en aucun cas je ne ferai cette vidéo, puisque pour moi ce coaching était vide, était creux, que ça ne m'a rien apporté et que de toute façon, ça fait un mois et demi que je n'y suis pas. Est-ce qu'on s'est posé la question? Est-ce que quand on est vraiment dans l'humain, on ne se dit pas, attends, ça fait un mois et demi que cette personne qui a payé n'est pas là, t'enverrais pas un petit message, toi?
Oui.
En disant, ça fait un mois et demi. Sachant qu'on n'est pas 2000.
Oui, vous êtes 15.
On est 15. Donc, on ne me voit pas pendant un mois et demi. Je pense que tout le monde, on le voyait très bien. Donc, tu pouvais m'envoyer un message. Non. On s'en fout, en tous les cas, elle a payé 3000, qu'elle vienne, qu'elle vienne pas.
C'est très intéressant ce que
c'est
tu dis.
Hyper,
ouais.
C'est hyper.
Si tu vraiment dans l'humain, elle t'aurait appelé.
Bien évidemment.
Bien sûr.
Bien évidemment. Elle m'aurait envoyé un mail, elle aurait demandé à son assistante. Est-ce que tu peux me demander.
Mais elle avait ton texto de toi.
Voilà, donc elle peut.
Ouais.
Mais en fait, là, il se passe rien. Là, je ne vais pas pendant un mois et demi, je n'ai même pas un message me demandant pourquoi je ne viens plus. Rien du tout. Et la personne qui était avec moi, avec qui on a beaucoup rigolé, et on a beaucoup parlé de tout ça en off quand on s'appelait, etc., typiquement, elle aussi. On ne lui a jamais dit. Elle ne venait. Alors, elle, c'est bien avant moi qu'elle s'arrêtait. Je pense qu'elle est venue 2 fois.
Ouais, je crois
très vite, elle a compris que c'était abusé. on est rentré en contact et puis on est devenu, voilà, ça plaît assez régulièrement. D'ailleurs, ce moment-là, faut que je l'ai pas appelé, faut que je la rappelle. Et elle, pareil, je lui ai dit, t'as reçu aucun message. Ah non, jamais reçu message. Bref. Donc tout le monde se met à faire cette vidéo. Et c'est là la force, mais de se dire, mais waouh!
La puissance.
Mais la puissance, mais c'est génie. C'est génial dans le premier sens du terme.
Ouais.
Ils ont fait un montage. C'est même pas l'assistante qui a fait un montage. Non, non, non. C'est une des coachées qui dit. Je m'en occupe, je prends toutes les vidéos et j'en fais un montage.
Incroyable.
Qui fait un montage et comment cette personne peut l'utiliser sur ses propres réseaux sociaux en disant regardez, c'est eux qui ont fait le montage. Parce que bien sûr, dans le message, dans le descriptif du post, c'est bien écrit regardez-moi cette magnifique surprise que j'ai eue, ils ont fait un super montage, etc. Et donc là, les gens qui sont vulnérables comme moi, je l'ai été il y a quelques mois, se disent waouh, attends, parce que c'était tellement puissant. A tellement c'était puissant que du coup, c'est même eux qui font son propre marketing.
Mais moi, c'est que eux, ils ont payé 3000 euros pour faire ensuite la publicité d'une nana qui va gagner grâce à eux. Vous n'avez toujours rien gagné. Ouais. Vous avez toujours zéro copec sur le compte en banque. Elle, grâce à vous, elle va gagner. Et encore ensuite, s'il vous plaît, qui voudrait faire un live avec cette personne-là pour...
Dire à quel point le coaching était top.
Mais évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est pas le coaching à quel point était top, c'était à quel point cette personne était top. Puisque là, c'est là où on rentre vraiment dans ce culte. Parce que finalement, c'est pas le coaching qui est recherché là. C'est cette personne. C'est toujours à quel point elle est géniale, à quel point ça a transformé ma vie. Mais t'as toujours pas d'argent sur ton compte en banque. Tu le sais, puisque t'étais avec eux. Et aujourd'hui, tu regardes un petit peu de loin leur entreprise.
Et ça n'a pas évolué.
Ça n'a pas évolué.
Et en plus de ça, moi, je ne suis pas allée pour l'argent parce que c'est très bien fait. Ce n'était pas écrit argent sur quand j'ai payé. Hein. C'était écrit se sentir mieux, trouver un équilibre de vie pro-perso. C'était tout une hygiène de vie.
Un art de vivre.
Un art de vivre.
Je te dis, ouais.
En tant qu'entrepreneur.
Qui répondait à tes valeurs.
Qui répondait à mes valeurs du moment. Mais une fois que je suis rentrée dedans. Ce que je comprends, c'est comment faire de la thune sur le dos de pauvres pigeons. J'ai même pas appris finalement comment mieux gérer mes horaires. J'ai rien appris du tout.
Et ce qui est remarquable, c'est qu'à aucun moment, jamais cette personne, que ce soit en live ou que ce soit en coaching, à aucun moment, elle ne te parle, elle, de comment elle s'organise.
Elle refuse.
Toi, tu n'as aucune idée.
Et quand on lui demande, elle dit que ça n'a pas son intérêt ici.
Voilà. Donc, vous parlez de rien. Donc, il n'y a aucun outil. Et ce qui me dérange, moi, enfin, ce qui m'attriste, c'est qu'on a parlé de cette personne-là parce que vraiment, on a cru que. Bah, avant, on a parlé de cette personne-là, avant de prendre son coaching, parce que nous, on pensait vraiment que c'est quelqu'un qui était. En fait, il y a des gens qui sont tellement bons orateurs que tu pourrais vraiment leur donner le.
Le bon Dieu de son confession.
Voilà. Et quand tu grattes un petit peu, tu te rends compte parce que les gens, moi, c'est de la manipulation. En fait, qu'elle soit volontaire ou non, c'est un peu de la manipulation, c'est jouer avec les mots, de rentrer dans la sensibilité des gens parce que finalement, tu parles un peu à tout le monde. Tout le monde passe un petit peu par les phases de vie dont elle parle, cette personne. Et c'est vrai que on peut tous y rentrer à un moment donné dans notre vie. Même nous, qui sommes vraiment, comme on dit, des personnes qui ont la tête sur les épaules, on se fait vraiment pas embrigader facilement. L'année dernière, ça a été une période de vulnérabilité très intense. Et du coup, ça va être l'occasion de parler du topic suivant, la maternité. Bon, là, on n'a pas été embrigadé par qui que ce soit. En fait, on a été embrigadé finalement par tous ces messages que t'entends, que tu vois passer partout sur les réseaux sociaux, les Montessori, les trucs, les nanas. Que tu savais même plus où tu te mettais toi, t'as ton premier enfant et tu rentres. Tu sais que tu vas être une mère mieux que la tienne, parce que t'as cette prétention, de dire que toutes les erreurs qu'a fait ta maman, tu ne le feras jamais. Tu te dis pas que ta mère aussi était une être humaine qui a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait aussi. Tu te dis que toi, tu seras mieux. Donc comme toi, tu seras mieux, tu vas donc bouffer tous les contenus de parents au top, de parents géniaux. Parce que pareil, t'es dans une fragilité, tu découvres un monde inconnu. Tu viens d'accoucher. Donc tu viens d'accoucher, faut imaginer que tu accouches, c'est quelque chose quand même qui est incroyable.
C'est un bouleversement.
C'est un bouleversement dans tout. J'ai l'impression d'être une autre personne, quoi. Et donc tu sais que tu veux être une maman au top. Et donc, tu rentres dans tous ces messages qu'on t'envoie, qu'on t'assène.
Et puis, encore une fois, on est sur les réseaux sociaux toujours. Oui. Hein. C'est sur les. Enfin, oui. Tout ça, c'est encore une fois quand on s'éloigne un peu de la vraie vie.
Oui.
Parce que si j'étais restée dans ma vraie vie sans les réseaux sociaux, j'aurais même pas su limite qu'en ce moment on est dans une vague de malades de la parentalité positive. Oui. Je veux dire, quand j'en ai parlé moi autour de moi à mes amis ou à nos parents ou à nos frères et sœurs, personne, on m'a regardé en mode c'est quoi parentalité bienveillante, positive, c'est quoi? Ouais. Parce que ça veut pas dire qu'ils sont complètement bêtes et qu'ils ne s'intéressent pas à ce qui se passe. Bien sûr qu'ils ont entendu parler, comme tout le monde, quand tu vas à la FNAC par exemple, tu vois un petit peu les livres, mais ils voient, ils survolent quelque chose. Ils vont entendre par exemple s'il y a une émission à la télé qui parle de ça, mais c'est survolé. Alors quand on est sur les réseaux, on n'est plus dans le juste le survol. Là, on est dans le... On rentre dans l'écran, on va regarder après les lives, les stories, les trucs. Tu vas regarder sur YouTube. Et puis là, tu arrives dans un monde où tu as l'impression que tout le monde est parent bienveillant. Et là, tu es la seule merde qui met sa fille dans la télé.
C'est ça.
Voilà, en fait, c'est vraiment ce côté où, quand je suis devenue maman, et moi, c'est moi qui ai commencé, hein, ce côté-là, c'est Isadora qui parle.
Et moi, pareil, je pensais que je serais jamais comme toi.
Voilà.
Parce que moi, je te voyais, je me disais, Isadora, elle va trop loin, trop ridicule. Mais c'est pour ça qu'on vous dit vraiment la vulnérabilité.
Ouais, c'est incroyable. Moi, j'étais enceinte, je tombe sur un livre, que je ne renie pas. J'ai adoré ce livre qui m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Mais tu lis un livre, j'aurais pu rester là. Mais non, parce qu'après, je vais sur Instagram. Puis après, on va chercher les comptes de parents bienveillants. Et puis là, on se rend compte que tout ce que je comptais faire, c'est le mal, c'est le diable. Ce que je comptais faire par rapport à ce que ma mère faisait, par exemple, c'était absolument pas ce qu'il faut faire, parce que la liste des violences éducatives ordinaires, je suis allée les lire, elle est immense, mais c'est incroyable tout ce qu'on a parlé de dire, les surnoms, les trucs. Et toi, tu rentres à l'intérieur, tu te dis, je ferai absolument aucune de ces VEO. Puis après, à un moment donné, comme pour tout, t'as les yeux qui sont fermés et tu les ouvres. Mais genre, en fait, il faut imaginer qu'à un moment donné, tu te noies. Ouais. C'est ça. Et que quand tu reprends ta bouffée d'air, quand tu remontes à la surface, tu te dis ah putain, mais en fait, je voyais n'importe quoi. Je voyais flou sous l'eau.
Ouais.
Je voyais flou. Et je dis pas que la parentalité bienveillante est nulle, pas du tout. Hein. Je trouve que, comme pour tout dans la vie, il y a des bons côtés dans tout, il y a des mauvais côtés dans tout. Toujours faire confiance à son bon sens et se faire confiance. Parce que du coup, moi, je suis devenue mère, on met mon gamin sur le bras, et plutôt que faire preuve de mon propre bon sens, j'ai suivi les doctrines.
Oui.
Il faut pas faire ça. Il faut faire du cododo. Je sais même pas aujourd'hui, avec le recul,
est-ce que j'avais envie
de faire du cododo, ou est-ce que je l'ai fait parce que c'était absolument le truc absolument incroyable à faire pour que ton enfant n'ait jamais aucun trauma. Et comme disait Mathieu tout à l'heure quand on en parlait, il me fait épurer, ça se trouve, c'est en faisant tout ça
que ton gamin va être traumatisé.
Être en contrôle, d'être surtout pas comme mes parents, et surtout être le parent bienveillant le plus possible, c'est ça qui va le traumatiser. Parce que je sais même plus, à un moment donné, ce que je faisais pour moi, parce que j'avais hyper envie de le faire, ou ce que j'ai fait parce que c'était la norme des réseaux sociaux.
C'est ça. Donc oui, moi je pense que le cododo, c'est sûr et certain que je l'aurais fait, pas parce que ça s'appelait cododo, juste parce que je pense que moi personnellement, avec ma personnalité, je n'aurais pas réussi à mettre ma fille dès la sortie de la maternité dans une chambre toute seule. J'aurais pas dormi la nuit, donc dans tous les cas,
non,
ça aurait été...
Non, bah regarde, mais regarde ça, pour le côté cododo.
Ouais.
Moi j'ai fait le cododo. Je voulais dormir avec mon enfant.
Oui.
Mais la parentalité bienveillante, etc. Nana, on dit d'acheter un cododo.
Voilà, oui.
Parce que
un lit cododo,
parce que tu dors pas avec ton enfant, parce que tu vas l'étouffer, nanien. Papa et maman m'ont dit, mais on a toujours dormi avec vous dans le lit.
Oui.
Moi, j'ai jamais osé dire sur les réseaux.
Moi aussi, j'ai jamais dit
sur les réseaux que ma fille
dormait dans mes bras.
N'a jamais dormi dans son cododo. Oui, elle avait le cododo qui était collé. Elle n'a jamais dormi dedans parce qu'en fait, elle dormait soit en écharpe sur moi ou sur son père, soit entre nous deux. Comme on avait un grand lit, on la mettait au milieu et on dormait le plus proche possible du sol pour pas... Et justement, parce que tellement la peur de l'étouffer, parce que on va l'étouffer. Mais je l'avais jamais dit sur les réseaux.
Non,
le cododo, je l'ai acheté limite parce que il fallait, parce que c'était un peu la norme, parce que...
Moi, j'avoue que j'ai récupéré ton lit cododo, que moi, j'ai mal, elle a dormi dans son lit cododo. En revanche, les premières nuits, elle a dormi dans mes bras. J'ai dormi assise. Est-ce que je l'ai dit sur les réseaux sociaux? Mon Dieu, parce que quand on devient mère sur les réseaux sociaux, quoi que tu montres, tu es une mauvaise mère. Mm. Quoi que tu montres, quelqu'un sait mieux que toi parce qu'il est passé par là. Parce que la mère d'avant est la meilleure mère que toi. Toi, t'es juste la novice. Donc on va t'apprendre. T'as rien demandé, hein. Mais on va te l'apprendre. Et moi, je sais, il y a des choses que je savais de moi-même, que j'allais pas étouffer mon bébé. Je savais, parce que moi, je suis quelqu'un, voilà, je ne bois pas. Je savais aussi que, voilà, on parle de boisson, on parle d'embonpoint, on parle de tout ça. Moi, je savais que je suis pas une nana déséquilibrée. Mmh. Moi, j'avais très bien qu'en gardant Gemma contre moi en dormant, qu'elle était en sécurité. Je l'ai jamais dit sur les réseaux, t'es folle ou quoi? Mmh. Mais attends, j'aurais dit ça sur les réseaux, mais je me serais pris une huée. Mmh. De ça, je dis non, mais vous rendez pas compte. Donc oui, il y a des trucs que tu te poses la question. Moi, la question que vraiment je me pose le plus, c'est même pas une question que je me pose, parce que je connais la réponse, mais est-ce que j'ai gardé Gemma avec moi un an pour moi, pour elle, ou parce que c'est ce que je pensais qu'il fallait faire pour être une parente
parfaite?
Parce
que quand t'écoutes tous les podcasts maternité, ou les comptes maternité, ou les trucs, on te dit que la première année... L'enfant doit être le plus proche possible, ou les 6 premiers mois, je sais plus.
Oui, 6 premiers mois au moins, minimum.
Être avec ses parents, parce que si pas être tout de suite dans le bain de la crèche, de la nounou, etc. Parce que ça va lui créer, grosso merdo, hein, parce que vraiment, c'est pas ça qui est dit comme ça, mais grosso merdo, tu comprends que si tu gardes pas ton enfant les 6 premiers mois avec toi... Il est foutu pour le reste de sa vie, comme nous, on est tous foutus, finalement. du coup, tu sais même plus si tu le fais... Mais moi, c'est pareil, hein. Je sais même plus si je le fais pour moi ou est-ce que je le fais parce que ton enfant va être foutu et donc tu fais vraiment par amour pour ton enfant, ou est-ce que tu le fais parce que
ça se fait,
ça se fait sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu vas être plus loué sur les réseaux sociaux si tu gardes ton enfant que alors qu'au fond de toi, en tant que mère,
t'es en PLS,
entrepreneur en plus, t'as juste envie de travailler de la journée, faire ton truc et que ton enfant rentre le soir heureux. Parce que quelque part, c'est quoi le truc? Moi, finalement, je gardais ma fille 3 fois dans la semaine. Les 3 fois où elle était avec moi, il fallait que quand même je travaille. Je ne travaillais pas que 2 jours dans la semaine, donc il fallait quand même que je travaille. Donc ces 3 jours-là, j'avais ma fille qui était avec moi. Et limite, j'étais limite plus énervée parce que, super, c'est ce jour-là où elle n'a pas voulu dormir, bien sûr, faire la sieste, alors que j'avais prévu, par exemple, je ne sais pas moi, de tourner une vidéo. Mais elle n'a pas dormi. Du coup, ça me décale tout. Du coup, je suis énervée. Du coup, le soir, tu es là en mode... Tu sais, tu fais la gueule, tu fais la gueule à ton mec, tu fais la gueule à ton enfant, c'est super, l'ambiance est super zen. Mais au moins, j'ai gardé mon enfant avec moi. Donc, qu'est-ce qui compte? C'est que j'ai gardé avec moi.
Oui.
Elle est pas traumatisée. Non. Maman, elle fait la gueule toute la journée, mais elle est pas traumatisée puisqu'elle est restée avec moi. Elle est restée avec maman. En revanche, maintenant qu'elle va à la crèche et que je la garde une fois dans la semaine, moi, je fais tout mon travail la journée. Mais quand elle arrive à 17h, maman, elle est au top. Maman, elle est hyper en forme. Qu'est-ce qui était le mieux alors? C'est pas du tout une question pour dire qui fait mieux ou quoi.
Non.
Mais moi, même
c'est de s'écouter.
Ma fille, elle a 2 ans et demi aujourd'hui, et je me rends compte que ce que j'ai fait. Et parfois, je me dis, demain j'ai un autre enfant. Mais je m'écoute. C'est complètement absurde. Je passais mon temps la première année de sa vie à limite être énervée, mais au moins elle était avec maman et tout va bien. Plutôt qu'au finalement, elle aurait été à la crèche et j'aurais fait mon travail et je vais la chercher à 16h ou au pire à 14h, maman était heureuse.
Bah oui.
Donc finalement, on s'écoute plus. C'est la norme dit qu'il faut garder son enfant à la maison parce que c'est hyper important.
Parce que je l'ai lu.
Et pourquoi? Parce que j'ai une personne dans une période, encore une fois, comme on dit, de vulnérabilité. Puisque j'ai une période où ma fille, elle, vous le savez, je vous en avais beaucoup parlé, pleurait beaucoup, ne dormait pas, faisait pas ses nuits, etc. Donc finalement, j'ai l'impression que c'était moi qui faisais mal. C'était obligatoirement moi qui faisais mal. Donc puisque je faisais mal, je suis alpaguée sur les comptes Instagram qui te vendent des formations pour savoir éduquer ton propre enfant.
Comment faire dormir le bébé. Parce qu'évidemment, les nuits, ça devient un business aussi.
Oui.
Encore une fois, on ne dit pas que ce n'est pas bien. Moi, j'estime
mais
que
Marisa,
tout est vrai.
J'ai
tout
acheté.
Est possible. Je sais que tu as acheté.
Bon.
Ça n'a rien donné.
Ça n'a rien donné.
Ça n'a rien donné.
Parce que ça servait à quoi? On m'a dit... Tout ce que je savais déjà.
Voilà.
Que t'avais déjà lu.
Tout. Voilà. Donc, bien sûr qu'il y a des choses qui fonctionnent. Ça, c'est évident. Moi, je pense que vraiment, c'est encore une fois revenir à son bon sens et surtout aussi s'écouter. Qu'est-ce que vous feriez en faisant abstraction des gens autour de vous, en faisant abstraction des réseaux sociaux? Si vous vous écoutez intérieurement, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous diriez, en fait, moi, j'ai vraiment envie... Honnêtement, j'ai plus envie de travailler, je veux garder mes enfants à la maison. Ok, voilà, c'est dit, c'est fait. Vous avez le droit. Mmh. Après, en effet, quand tu ouvres les yeux et que tu en parles aux autres, en effet, que là, c'est l'autre qui commence à poser problème en me disant « bah non, mais quand même... » Mais moi, par exemple, si je ferme les yeux et que je m'écoutais, est-ce que j'aurais gardé Gemma pendant un an? Ça a été une année très compliquée. Gérer une entreprise qu'on venait d'ouvrir, en même temps d'élever un bébé que tu viens de créer, c'était très, très dur pour moi. Non, moi, de moi-même, je pense qu'aujourd'hui, demain, à recommencer, je pense que je la garderai 6 mois avec moi. Si un jour j'ai un autre bébé, je garderai 6 mois. En revanche, je prendrai mes dispositions pour ne plus travailler autant.
Oui, tout à fait.
Mais je me serai écoutée. Parce que vouloir être et la mère parfaite qui garde son enfant toute la journée et l'entrepreneur qui doit être là pour ses membres, etc., c'était juste ingérable. Donc juste, si vous fermez les yeux et que vous posez la question, mais vraiment dans l'intimité à vous-même, que vous l'écrivez sur un papier ou peu importe, que vous le disiez tout haut, il n'y a que vous, en fait. Mais essayez de ne pas vous faire influencer par ce qui se dit de votre entourage, par ce qui se dit sur les réseaux sociaux, parce que parfois, en fait, on s'oublie totalement.
On s'oublie. Et c'est ça le but de cet épisode, c'est en voyant nos petites erreurs à nous,
ouais.
Mais on se rend compte qu'en fait, dans tout ça, on a quand même oublié quelle était notre place à nous.
Oui.
Je ne savais même plus, on l'a dit déjà plusieurs fois aussi sur Instagram, on ne savait même plus quelle était notre place, qui j'étais. Isadora, maman, pas maman, entrepreneur, je ne sais plus. Parce que quand on est sur les réseaux, bah en fait, on a l'impression qu'il faut être la meilleure, la mieux du monde. Et donc chacun, il va, c'est un peu l'échelle,
l'escalade. Quoi.
L'escalade. Et nous, on n'a jamais parlé de maternité parce que moi, j'ai tellement embrigadé dans la maternité positive. Alors, non. Parce que je dis ça, mais non, parce que je ne suis pas allée dans le truc extrême de CDVE.
Non, non, pas du tout.
Voilà.
Non, c'est juste que nous, on était... En fait, nous, on a voulu à tout prix être des mères parfaites. Mmh. Aujourd'hui, on va vous dire clairement la parentalité bienveillante, positive, on a dit bullshit, c'est clair et net qu'on lâche l'affaire.
On ne consomme plus de comptes qui parlent de ça.
Bien sûr que... Enfin, en fait, ce qu'il faut se poser comme question, c'est que les gens, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a des parents, enfin, à part les parents, dans la violence, etc., mais les parents comme nous, des gens qui ont voulu avoir des enfants, est-ce qu'il y a des parents qui se sont dit, je vais faire de la parentalité négative? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit ça?
Non.
Je veux faire de la parentalité négative. Moi, j'ai vraiment pas envie de m'occuper de mon enfant. Non, la majorité des gens, quand ils ont des enfants, ils veulent la parentalité bienveillante. Bien sûr qu'on a envie d'être bienveillant avec nos enfants. Mais... En même temps, t'as pas envie de culpabiliser à chaque fois que tu fais quelque chose pour ton enfant ou que tu ne fais pas quelque chose. Il y a des gens qui sont quand même venus à culpabiliser juste de nettoyer les fesses de leur enfant. Parce que, est-ce que... Je lui ai pas demandé.
J'ai pas demandé d'autorisation.
Non mais attendez, on va où? Si tu commences à demander à un enfant, est-ce que je peux te couper les cheveux? Parce qu'il a 6 mois, non mais ça va pas. Est-ce que je peux te couper les ongles? Est-ce que je peux te faire un bisou? J'attends qu'ils me disent oui ou non. Non mais, au bout d'un moment... La parentalité bienveillante, on est d'accord que c'est d'entourer son enfant d'amour, de présence, d'écoute, et aussi évidemment tout ce qui est évidemment hygiène, sécurité, manger, dodo, enfin tout ça. Mais moi, j'estime maintenant que je suis une bonne maman parce que je suis présente pour ma fille. Et quand je dis présente, c'est-à-dire que j'essaye d'avoir des moments de présence pour elle où je ne suis qu'avec elle. Mais j'arrête de m'auto-flageller s'il y a des moments de présence où je suis pas présente avec elle du matin au réveil jusqu'au soir, à lui tenir la main, à lui faire mettre des spaghettis dans des passoires parce qu'il faut impérativement toujours stimuler son gamin au max parce qu'il faut qu'il soit à tout prix le meilleur Einstein dès de ses 4 ans. Moi, ça, c'est non.
En fait, je trouve qu'avec la parentalité positive... C'est hyper insidieux, mais moi, c'est vraiment avec le recul. Maintenant, ça fait 2 ans et demi que ma fille est là, donc je peux vous dire que j'en ai bouffé du contenu parentalité positive. C'est qu'en fait, on en demande beaucoup à nos gamins.
Oui.
En fait, on pense qu'on en demande plus.
Oui.
Mais je trouve qu'on en demande plus qu'à nous quand on était petits. Je m'explique. Quand on était petits, nous, enfin moi, j'ai des souvenirs, on nous laissait courir toute la journée dans le jardin, on nous laissait regarder la télé parce que, tu vois, nous, on a grandi avec la télé.
Ouais. Mais,
alors, ça n'a jamais été quelque chose de genre toute la journée dans la télé. En revanche, on était en famille, on regardait la télé, ou parfois qu'entre frères et sœurs, et puis nos parents, est-ce qu'on peut regarder la télé? Ils nous disaient oui. Pendant ce temps, ma mère, elle faisait le repas, elle nous laissait devant la télé.
Ça n'a jamais été un sujet. Ça, c'est parce que c'était une question d'équilibre. En fait, c'est toujours ça aussi. Mm. Parce que nous, on a eu des parents qui nous ont beaucoup fait visiter. Mm. On partait beaucoup en balade, comme nous avec nos filles. Mm. Ma mère, elle faisait énormément la cuisine, donc on a beaucoup cuisiné avec maman. Mm. Donc maman, elle nous faisait écrire les recettes, etc., pendant qu'elle cuisinait. Donc, en fait, c'était un équilibre. Notre télé n'a jamais été une babysitter.
Non.
En fait, c'est ça le truc. C'est
mais quelque part.
Si,
si d'un côté, que d'un côté, oui. Quand maman faisait le repas, par exemple, elle était seule dans sa cuisine.
Oui, mais
c'est
cuisine. Pas une babysitter du matin au soir. Non, c'est juste qu'il y avait un équilibre de stimulation avec maman qui faisait la cuisine. On allait se balader en forêt, on ramassait les marrons. Mmh. On allait voir nos petits copains, on faisait du vélo avec. Et aussi, il y avait la télé,
donc
c'était
moi,
pas grave.
On demandait moins. La seule chose qu'on demandait, limite, c'était de bien travailler à l'école.
Oui.
Aujourd'hui, je trouve qu'avec cette parentalité bienveillante... Sans s'en rendre compte, on en demande beaucoup à nos gamins. Ça veut dire qu'il faut tout le temps qu'ils soient stimulés. Alors ça veut dire, alors surtout, on rentre pas en contact. Hein, ça aussi, c'est dans le télabordage.
Ah bon, je sais pas, non.
C'est en mode, s'ils jouent, il faut les laisser jouer tout seuls et pas intervenir.
Et voilà.
Donc,
dans le contrôle, on va toujours dans le contrôle.
À quel point j'en étais devenue malade de cette parentalité positive, c'est que Mathieu, c'est quelqu'un qui adore jouer avec sa fille. Il adore jouer. Et quand elle jouait toute seule, Mathieu systématiquement, quand il rentrait du travail, il voyait qu'il jouait, je sais pas moi, la pâte à modeler. Il arrivait, il enlevait vite son manteau, etc. Il courait et il allait jouer à la pâte à modeler. Et moi, qu'est-ce que je lui disais ? Non, mais pour en rendre compte, hein, comment j'ai ouvert les yeux maintenant. Mathieu, ne joue pas avec elle parce qu'il ne faut pas intervenir. Dans la paternité positive, on dit qu'il ne faut pas intervenir quand l'enfant joue.
C'est ouf,
pour te dire.
C'est ouf.
Donc, je ne joue pas avec elle. Donc, lui, comme il m'écoute, parce qu'il pense que je connais beaucoup mieux l'éducation positive, puisque.
Donc, toi, tu as la réponse.
J'ai la réponse,
tu as
la
fameuse réponse.
Attends, il y en a. Moi j'ai lu, moi j'ai su,
c'est
moi
ça.
J'ai la réponse. Et donc lui il acceptait, et donc il remettait son manteau et puis il disait ok bon bah je...
Frustré.
Parce que je lui disais il faut absolument la laisser jouer toute seule, il faut pas intervenir, ça lui fait pas de bien, nanana. Putain mais lui, il connaît pas du tout tout ça sur les réseaux, il connaît rien de la maternité positive, parentalité positive, etc. Lui en fait, il voulait juste jouer avec sa fille.
Parce qu'encore une fois, c'est comme quand on parle d'alimentation finalement... Ouais. En fait, tu deviens dans du contrôle.
C'est ça.
Tout est de, il y a plus rien qui devient naturel.
Non.
Et en fait, tu te poses des questions sur tout.
Oui.
Est-ce que si je fais ça avec ma fille, c'est bien,
pour
c'est
elle,
pas bien,
c'est ça.
C'est bien pour elle. Est-ce qu'elle va devenir traumatisée? Est-ce que elle va savoir marcher? Est-ce qu'elle va savoir non mais est-ce qu'elle va réussir à entrer en contact avec les gens? En fait, tu scrutes ton enfant. En mode, il marche pas encore. Bizarre, parce que moi, j'ai vu la nana sur les réseaux sociaux, là, son enfant vient de naître et il marchait déjà 2 jours. La mienne, 14 mois, toujours pas. Donc, ça, c'est... Et même si tu dis, oui, vous savez, chaque enfant a son rythme, je trouve que dans la parentalité bienveillante qu'on voit sur les réseaux sociaux, t'as pas l'impression que chaque enfant a son rythme.
C'est
on est de 8 mois à 12 mois, il faut qu'ils savent. Il y a un panel de choses que l'enfant
c'est
doit
ça.
Savoir. S'il rentre pas dans cette catégorie-là.
Là,
va falloir c'est chaud.
C'est chaud. Et comme je disais tout à l'heure, ce côté où on leur en demande beaucoup, c'est que finalement, ils sont tellement surstimulés. Quand on regarde les comptes de parentalité positive, je me dis, mais même la maman ou le papa, ils sont pas épuisés à la fin de la journée. On fait faire les balades. Ensuite, on rentre, on fait de la peinture. Une fois qu'on a fini la peinture, on va manger, mais on va tous cuisiner tous ensemble dans la joie et la bonne humeur avec une petite musique au fond sonore. Ensuite, c'est la sieste. Mais pendant que les enfants font la sieste, maman prépare les prochaines activités qui vont arriver après. Ensuite, les enfants se réveillent, maman cerne sous les yeux parce qu'elle n'en peut plus. Mais l'enfant va aller jouer, après va aller faire, je sais pas moi, de la pâte à modeler. On va lui apprendre à compter tout de suite. Il a 6 mois. Les gens... Après, on lui donne le bain en autonomie. Mais il faut tout de suite qu'il soit tout seul dans son bain, tout seul le plus possible, parce qu'il faut qu'il sache son environnement. Il faut pas le toucher. Il faut mettre juste un petit fond tout dans le bain. Non mais à un moment donné, je me moque de moi-même. En fait, je rigole,
oui,
parce que
même
je me moque de
sûr,
moi-même.
Moi aussi,
parce que
me
tout
moque
ce que
de
je
moi,
dis,
bien sûr,
ça paraît énorme comme ça, mais je peux vous dire que pendant, je dirais moi facilement 1 an et demi, j'étais à fond. Et c'est vraiment depuis quelques temps, depuis on va dire, je dirais bien 5-6 mois, mais moi c'est beaucoup Claudie qui m'a ouvert les yeux.
Ouais.
De ce côté, mais qu'est-ce que tu fais? T'es dans le contrôle de tout. Pour vous dire, des soirs où on était crevés avec Mathieu. On se met devant la... bien sûr que j'ai banni... Vous pensez bien que j'ai banni la télé dès la naissance de ma fille.
Ouais.
Plus de télé à la maison, c'est interdit. La télé est interdite à la maison. Nous qui regardions avant Netflix, etc., banni de la maison, on ne regarde que quand Alban n'est plus là. Surtout quand Alba et papa-maman, on s'abreuve de télé. Mais sinon,
et ce qui est incroyable, c'est que même Mathieu, s'il avait eu envie de regarder la télé lui tout seul, genre toi tu t'occupes d'Alba, ouais, tu fais une pâtisserie et que lui il a envie de se mettre un truc, il était interdit. C'était pas,
bah non,
pas
papa
le droit.
La télé quand Alba est dans les parages, voilà, dans les parages. Surtout pas. Donc du coup, l'autre, un soir, c'est vraiment là quand j'en ai parlé à Claudie, qu'elle m'a dit waouh, t'es matrixée. Elle m'a pas dit ça, mais c'est ce que j'ai compris en tout cas. C'est le côté où un soir, on était crevés avec Mathieu, on avait travaillé, il y avait eu pas mal de choses dans la journée, etc. On était crevés. C'était un vendredi soir. Et j'étais avec Claudie, on faisait une chronique naturo. Tard, il devait être un vendredi, il devait être 19h, en train encore de faire une chronique naturo. Et j'ai dit à Claudie, putain, je suis crevée, quoi, de cette journée, de cette semaine, je suis crevée. Et puis elle me dit, mais tout bêtement, bah là, on est vendredi soir, tu rentres à la maison, t'as Alba qui est à la maison, tu prépares, je sais pas, genre, des petites gaufres. Et puis, vous me mettez devant la télé, vous faites un petit repas devant la télé. Claudie me dit ça. Mais comment je te l'ai reçu, Claudie? En mode, la télé? Manger devant la télé, pleine conscience. Pleine conscience. Mais je vais faire manger ma fille. Hein, elle va venir devant la télé. Elle va venir rebelle. Elle va venir complètement débile parce qu'elle a regardé peu cher. Elle a regardé Choupi sur Netflix. Elle va devenir... Elle ne va jamais parler. Elle ne va jamais parler. C'est impossible de parler quand on regarde la télé, etc.
Ses neurones sont détruits à tout jamais.
Et c'est là que Claudie m'a regardé. Et j'ai vu dans son regard qui j'étais. Et là, je me suis dit, ah ouais, meuf, t'es devenue complètement... Mais t'es devenue malade. Et le soir, j'en parle à Mathieu qui me dit, mais en fait, moi, j'ai jamais compris ce délire parce qu'on est avec elle, on regarde la télé tous les trois, on passe un bon moment, c'est des bons souvenirs. Il me dit, t'as jamais de bons souvenirs de toi avec tes parents?
Et si, là, mais à partir de 3 ans.
Bah, oui, à partir de 3 ans. Parce que oui, à partir de 3 ans, bien évidemment. Et moi, je me dis, bah, bien évidemment. T'en souviens, par exemple, avec papa-maman, les soirées, oui, c'était quoi la série là où ils sont de prison là, ou Cold Case, et l'autre Prison Break, ouais, là. Ouais. On regardait ça tous ensemble, on passait des bons moments
avant, après 3 ans.
Après 3 ans, bien sûr. Mais je veux dire, la télé n'a jamais été un sujet.
Mais c'est parce que c'est pas ça devrait, en fait, dans les comportements aujourd'hui, et moi j'ai beaucoup de peine et de questionnement pour la génération, moi, de notre neveu qui a 23 ans, pour la génération de Mahoni qui a 15 ans. J'ai vraiment, j'ai vraiment des gros questionnements en me disant, mon Dieu, ça va être, pour eux, ça va être dur, parce que tous nos comportements sont contrôlés, analysé, doit être justifié. Il y a plus juste cette liberté.
C'est quoi le film là où c'est un peu Truman Show, tu vois?
Complètement.
On est un peu, plus personne ne fait rien avec son propre cerveau et avec son cœur.
Oui.
On fait tout
en fonction de
quelqu'un. Mais là, on parle vraiment de personnes qui sont sur les réseaux, hein, parce que dans la vie de tous les jours, par exemple, quand je parle à des personnes qui sont pas du tout sur les réseaux, de comment moi j'étais, par exemple, avec la parentalité positive, la plupart des gens ne savent même pas ce que c'était.
Non.
Ou me disent, oui, bah moi j'ai entendu parler, par exemple, d'Isabelle Filioza, de faire attention, voilà, de donner de l'amour. En fait, ce qu'on retient, finalement, ce qu'on devrait retenir uniquement des livres d'Isabelle Filioza ou de Guéguen, ou je sais pas comment on dit, Guéguen, je sais pas comment on dit, c'est que finalement, notre génération à nous, ou les générations de nos parents, par exemple, ce qu'ils ont le plus cruellement manqué, quelque part, c'était...
La communication, l'écoute.
L'écoute, et puis beaucoup les caresses,
oui,
le câlin, l'amour. En fait, nos parents nous aiment, mais ne nous le montraient pas comme on le montre aujourd'hui. C'était plus les papas, c'était plus le côté on va travailler beaucoup pour souvenir aux besoins de l'enfant. Donc c'est pas grave si on n'est pas là parce que je travaille pour eux.
Oui. Et les émotions, moi, ce que je ressens vraiment, c'est vraiment le côté où... Tu parlais pas forcément tes émotions à tes parents. En tout cas, c'était pas écouté.
Voilà.
C'était plutôt des phrases comme on pleure pas pour ça.
Oui.
On fait pas ça à table. Il y a plein de choses comme ça que tu ne voulais plus refaire. Mais en soi.
Mais après, tu vas trop loin.
Tu vas trop loin.
Après,
comme tout. Tu peux aller n'importe où. Hein.
Bah oui.
Donc, pour la parentalité, c'est ça dont on avait envie de parler. Je sais pas combien de temps ça fait qu'ils auront qu'on parle. 1h12, bon.
Ça va encore.
On va passer sur le sujet de la spiritualité. On a moins de choses à dire dessus. Mais moi, je voulais vraiment parler de cette spiritualité parce que j'écoutais justement un live de... Comment elle s'appelle ? Isabelle Serre. Les oracles d'Isa. Et elle parlait de la spiritualité doudou. Et moi, je me suis dit, mais oui, je vois totalement de quoi elle partirait avec la spiritualité. Nous, on estime qu'on est des êtres spirituels, mais on est aussi des êtres très terrestre. Là, j'en parlais avec le mec qui a fait mon état des lieux de sortie, parce que mon état des lieux d'entrée dans ma nouvelle maison, parce qu'on a parlé une heure et demie avec ce monsieur de 60 ans. C'est très intéressant comme discussion. Et je me suis beaucoup reconnue en lui. Et il me disait, moi, j'ai découvert récemment la spiritualité, mais je suis quelqu'un de très terrestre aussi, ancré vraiment dans la terre. Et moi, c'est exactement ça. Je suis pas quelqu'un... Je sais pas, la spiritualité de... je sais pas, moi, je fais pas des toute la journée. Mmh. Je fais pas du yoga toute la journée. Je ne fais pas d'oracle. Je n'en ai jamais acheté. Mais j'estime que oui, je suis un être spirituel.
On réfléchit au sens de la vie.
On se pose des questions. Mais aujourd'hui, la spiritualité, en effet, c'est très marketing. On en reviendra toujours au truc, hein, l'argent. C'est devenu quelque chose de très marketing. Et aujourd'hui, la spiritualité, on va pas se mentir, ça nous attire énormément tous, puisque, comme on l'avait dit dans un précédent épisode, l'être humain, aujourd'hui, on s'est tellement détourné de notre nature profonde, qui est d'être au contact de la nature. Mmh. On s'est tellement tourné vers le capitalisme, on s'est tellement tourné vers les villes, qu'aujourd'hui, on n'en peut plus. L'être humain, aujourd'hui, il est perdu, parce que forcément, il n'est pas dans l'endroit où il devrait être. On est perdu, donc on essaie de trouver une réponse. Toujours. On essaie de trouver une solution. Donc la spiritualité, la philosophie, tout ça...
Développement personnel,
ça peut aider. Le truc qui n'aide pas, encore une fois, c'est quand on perd cette notion d'équilibre. Mmh. C'est quand on rentre à fond dans une brèche et que, comme disait Isabelle, t'as cette spiritualité doudou qui rentre en action, où tu oublies totalement ta responsabilité sur ta vie, puisque c'est quelqu'un d'autre, c'est quelque chose de plus grand que toi, qui aura le contrôle sur ta vie. Puisque forcément, si je manifeste, tout va bien. C'est plus moi la responsable. J'ai manifesté, j'ai dit, j'ai fait 3 incantations, et demain, j'ai ce dont j'ai manifesté. Et en fait, du coup, tu passes ton temps à chercher la réponse. Donc, t'achètes oracle sur oracle. Tu fais méditation sur méditation. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre. Tu fais brûler des bâtons d'encens à n'en plus pouvoir. T'achètes de la sauge, du palo santo. Enfin, tu rentres dans un truc où tu passes ton temps à acheter des livres sur la spiritualité. Tu achètes pour trouver la réponse. Et en fait, forcément, y a des gens qui décident d'en faire un business. Parce que t'es vulnérable. Parce que toi, tu cherches des réponses à certaines questions. Mais vraiment, faut comprendre que... Parce que j'en parlais avec ce monsieur qui a 60 ans quand même. Et on se pose les mêmes questions sur la vie. Et ce monsieur a 60 ans, il se les pose toujours. Il est plus apaisé au fur et à mesure du temps, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de la réponse. La réponse qu'on cherche tous, en fait, elle n'existe pas. On aura des réponses au fur et à mesure qu'on va cheminer dans la vie, mais il n'y a pas cette clé du bonheur ultime.
Non.
Et hier, j'écoutais une youtubeuse, d'ailleurs, ça m'a vraiment impacté ce qu'elle a dit. Quelqu'un lui pose la question dans une FAQ, est-ce que tu te sens épanouie? Et elle a répondu, non, je peux pas dire ça, parce que je pense qu'on est pleinement épanouie quand on a tout ce qu'on veut dans la vie, et moi pour l'instant j'ai pas tout ce que je veux, donc, mais je m'y rapproche dangereusement, je suis très contente, je m'approche de plus en plus de ce que je veux, et quand j'aurai tout ce que je veux dans la vie, je serai heureuse. Et là j'ai écouté ça, j'étais là, non ma chérie, tu te trompes. Ça, c'est vraiment, je crois, le plus grand mensonge de l'être humain, c'est de croire que le jour où
tu auras le résultat attendu,
tu seras heureux.
Et ça, on le voit partout.
Partout.
Tu veux perdre du poids, tu penses que quand tu vas atteindre enfin le poids que tu voulais, tu seras heureux. Pas du tout. Tu penses que, comme on disait autrefois, tu gagnes 1000 balles. Ah non, quand je gagnerai 3000, je serai plus heureuse. Pas du tout. Quand j'aurai une plus grande maison,
je serai plus heureuse.
Je serai plus heureuse. Pas spécialement. Cette quête-là,
quand j'aurai rencontré l'homme de ma vie,
je serai plus heureuse. Pas spécialement. C'est en fait cette quête du bonheur à l'extérieur de soi.
Ouais.
De toute façon, ne marchera pas. Et comme dit Claudie l'autre fois, elle le dit tout le temps, et c'est vraiment, j'adore. Parce qu'on est quand même, Claudie est plus âgée que nous, et elle dit toujours, mais toute notre vie, jusqu'à la mort, nous serons en quête de nous-mêmes. Notre destin sur Terre, notre seule et unique limite business qu'on devrait avoir sur Terre, c'est de se trouver, c'est de s'épanouir, c'est
de vivre
pleinement.
Mais de vivre vraiment. Et en fait, à la fin de ta vie, se dire, j'ai vécu et pas j'étais dans le contrôle parce que ma maison, du coup, je suis hyper maniaque. Ma maison est toujours propre et rangée, trop bien. J'ai plein de petits bocaux avec marqué dessus farine de blé complet.
Pourquoi j'ai un bocage, tu me tacles dans tout ce que tu dis.
Non, parce que moi, j'ai aussi ces petits bocaux, mais dans le sens où, parce qu'ils ont vraiment, on est des personnes dans le contrôle, beaucoup. Et en fait, avec ce monsieur-là, je lui parlais de... On parlait de nous, en fait, on parlait de nos vies. Et il me disait que lui, il a quitté sa femme parce qu'elle était trop rigoureuse. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous voulez dire par trop rigoureuse? Et en fait, le mec m'a décrit, a décrit qui j'étais. C'était une nana qui était hyper dans le contrôle, très maniaque. Les enfants, tu vois, avaient toujours tiré à quatre épingles. C'était une... Et en fait, il me disait, est-ce qu'aujourd'hui, elle est heureuse? Non. Et il me disait, et aujourd'hui, malheureusement, on a annoncé à son ex-femme, du coup, qu'elle avait un cancer et que c'était en phase, en stade 3 et que, bon, bah, la fin est proche, quoi. Et il me dit, du coup, elle a 58 ans, elle aura eu une maison hyper bien rangée toute sa vie, elle aura eu des enfants qui auront vraiment obéi au doigt et à l'ongle.
À l'œil.
À l'œil, au doigt et à l'œil. rubis sur ongle, attendez, je vois. Toute sa vie. Elle aura été malheureuse en amour parce que finalement, elle m'a laissé partir parce que j'en pouvais plus. Et aujourd'hui, à 58 ans, on lui annonce que potentiellement, bientôt, c'est fini. Donc, est-ce qu'elle aura vécu? Bah non. Non. Et en fait, on a parlé pendant une heure et demie, ça m'a beaucoup impactée. Et cette jeune femme sur YouTube qui a dit cette phrase-là, et comme elle a une audience très jeune, je me suis dit, waouh, encore se croire. Mais ça, je l'ai cru pendant longtemps aussi, moi. J'ai eu cette erreur de croire
mais
pendant longtemps.
Mais lorsque, quand on vieillit,
oui.
Au fur et à mesure, je pense que quand on était jeune, oui. On pensait justement, et c'est ça, quand on voit les gens sur les réseaux, les business sous les réseaux, c'est souvent comme nous quand on avait 24 ans, quoi, tu vois, où tu dis, ah, moi, je vais faire péter le game, je vais vivre à New York, etc. Et plus tu vieillis, et je peux vous assurer qu'en tout cas, on n'est pas si vieille, mais quand même, quand je parlais autrefois avec des personnes qui avaient 24 ans, moi, j'ai l'impression de parler avec mes pères, et quand je me rends compte qu'en fait, j'ai 10 ans de plus que vous.
Ouais.
Ah, moi, j'ai 10 ans de plus de vécu que vous.
Oui.
Donc, c'est quand même énorme quand j'y pense.
Donc, j'ai la réponse.
Non, j'ai pas la réponse. En revanche, ce que je sais, c'est que plus je vieillis et plus je vais et plus je tends finalement à vivre ce que j'ai vraiment envie de vivre et non pas ce que le monde, le virtuel, les réseaux nous font vivre. Et plus je me rends compte que, par exemple, Pierre Rabhi qui disait qu'il faut être au plus proche de la nature, plus je vais être proche, par exemple, les moines qui vivent avec rien mais qui finalement sont beaucoup plus heureux que nous. On peut gagner tellement d'argent maintenant sur les réseaux. Avec les réseaux, c'est sûr qu'on peut créer des business de ouf. Est-ce qu'on est plus heureux avec tout cet argent, avec la femme de ménage qui vient tous les jours, avec la nounou qui garde les enfants, etc.? Bah, je sais pas.
Ouais.
Et d'ailleurs, ça fait penser à Nabila, sa truc, là, son émission là, sur...
Sur Amazon Prime, je sais pas quoi.
Où elle est hyper populaire, mais qui dit qu'elle pleure très souvent, qu'elle n'est pas si épanouie. Et tu te dis, bah, finalement, les gens limite l'idolâtrent en mode, elle a tout. Elle a la nounou à domicile, elle ne fait jamais le ménage, elle a tout. Elle prend un jet privé pour aller à tel ou tel endroit. Elle peut aller dans n'importe quel hôtel. Et quand elle arrive dans un hôtel, ça m'avait choqué cette phrase quand j'avais vu l'extrait. Non, pas l'extrait, parce que j'ai regardé les deux premiers épisodes. Et finalement, après, j'ai arrêté, mais les deux premiers épisodes étaient hyper intéressants. Et j'étais là. En fait, elle arrive dans un hôtel qui est juste incroyable. Là où moi, je n'ai jamais mis les pieds. Incroyable. Et son mec lui dit, t'as pas l'air heureuse d'être là. Ils se mettent à s'engueuler dans cet hôtel qui est juste incroyable, paradisiaque. Ils se mettent à se gueuler dessus parce qu'elle, elle dit, mais ça, c'est ma vie de tous les jours, ça. Ça ne...
Elle est blasée maintenant.
Plus rien. Ça ne lui fait absolument plus rien dans un hôtel qui, pour moi, si j'y allais demain, je me dis, waouh, je vis un truc un peu unique, tu vois, qui peut m'arriver une fois dans ma vie. Bah non, elle est blasée. Donc finalement, c'est quoi
Elle a perdu l'émerveillement.
L'émerveillement.
Elle a perdu l'émerveillement, donc c'est sûr que. Non, je pense
c'est quand même plus beau d'être émerveillé quand on va dans, je sais pas, à la campagne et qu'on voit tes premières jonquilles, là, au printemps, qui vont pousser. Bah, moi, je trouve que c'est beau, l'émerveillement de la nature qu'on a perdu aujourd'hui.
De s'émerveiller de ton enfant qui voit une poule pour la première fois et qui fait cote, cote, cote. Croire que tu vas atteindre le bonheur quand, alors que le bonheur, il est tous les jours. Et si le bonheur n'est pas tous les jours, qu'est-ce qu'on peut faire, soit pour changer ça. Et c'est vrai que la spiritualité doudou, c'est vraiment très intéressant comme concept. J'adore parce que... Ce truc de je veux que quelqu'un me donne la réponse de ce que je peux faire, de ce que je dois faire, donc je vais lire X livres de développement personnel ou de spiritualité, parce que je cherche cette réponse dans chaque livre, et finalement je suis un peu déçue parce que je dis « Ah ouais, le début du livre, il est très prometteur, ouais, ouais, ouais !» Parce que je vais vous dire la vérité, c'est que moi j'ai connu ça il y a quelques mois. J'étais tellement perdue avec cette matrescence. Mmh. Je savais que je voulais retourner vers chez Adora et Mathieu et papa-maman. Mais en même temps, la peur de ce que cela peut engendrer pour mon couple, pour plein de choses, pour le regard des gens, pour plein de choses. Donc du coup, j'ai lu, moi qui n'avais jamais lu de ma vie de livre de développement personnel, j'en ai lu énormément. Que certains, j'ai même pas fini, parce que dès que je comprenais qu'il n'y avait pas de réponse vraiment que je voulais, j'allais au suivant. C'est de la boulimie d'informations. Mais en fait, au bout d'un moment, j'ai dit, Marisa, ça te met la boule au ventre à mort, mais va falloir prendre la vraie décision. Tu sais, toi, ce que tu... En fait, au fond, on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'il faut faire. C'est juste que c'est dur
de le dire.
Parfois, il y a des choses qui sont... Chacun en est différent. Donc là, chacun a sa propre chose. Parfois, ça peut être juste être dur de dire à quelqu'un qu'on veut couper les ponts. Parce que tu me fais pas du bien, parce que t'es peut-être une mère qui est un peu intrusive et abusive. On sait pas. Ça peut être une relation toxique. Je sais pas. Ça peut être... il faut que je dise non à mon chef quand il va encore me dire que je dois aller à la photocopie alors que c'est pas ça mon boulot. On pourra chercher toutes les réponses dans tous les livres, sur toutes les chaînes YouTube de développement personnel et de coaching, etc. En fait, au fond de nous, ce qu'on voudrait, c'est que quelqu'un le fasse à notre place. En fait, on voudrait que quelqu'un nous prenne la main et dise « Viens, je vais dire à ton patron que tu veux quitter cet emploi. Viens !»
Mais le truc, c'est que tout part de soi.
Mais tout part de soi. Et c'est ça qui est difficile. Donc après, c'est juste prendre le temps aussi. On ne peut pas tout changer en 3 jours. Ça prend du temps. C'est dur à accepter que parfois, ça prend du temps. Mais que de toute manière, ce sera à nous. Donc la spiritualité peut vous aider, évidemment. Moi, la spiritualité m'aide au quotidien parce que je questionne la vie, parce que j'adore avoir des conversations comme j'ai eu avec le monsieur qui a fait mon état des lieux d'entrée. Je ne m'y attendais pas du tout en allant faire un état des lieux d'entrée. C'était plutôt une corvée, ce truc. Je me dis, bon Dieu, qu'on s'arrête. On a parlé pendant 1h30. Parce que c'est ça, le vrai bonheur. En fait, c'est ça, la vraie spiritualité. C'est aussi de parler avec des gens de la vraie vie avec qui on échange et qui, lui, n'a aucune idée de ce que c'est les réseaux sociaux. Il comprend même pas mon métier. Et voilà. Et c'était hyper intéressant. Et lui aussi, c'est son parcours de vie, il a 60 ans. Il n'a pas la réponse.
Non.
Il a eu des réponses. Il m'a dit, j'ai trouvé un certain apaisement, j'ai changé, parce que j'ai quelqu'un d'extrêmement sanguin, qui se battait avant avec mes locataires. Voilà, au fur et à mesure, je me suis assagie, je me suis apaisée, je me sens mieux. Bien sûr, il me dit que il a des démons encore. Bien sûr qu'il y a des moments où ça ne va pas bien, mais... Il est dans une meilleure version de lui-même qu'il y a plusieurs années. Et ça, c'est beau. Il n'a pas la réponse. Donc, croire qu'il y aura la réponse, non. Croire que la réponse se trouve dans un livre, non. Personne n'a écrit de livre avec une réponse. Les gens ne font que des propositions. Ils vous proposent des pistes de réflexion. Ils guident. Mais ce n'est pas pour dire que les gens... voilà, je vous dis ça parce que ce n'est pas qu'ils ont écrit un livre et qu'ils sont nuls. Non, c'est qu'ils vous proposent des pistes, comme nous, on propose des pistes sur notre plateforme, mais en aucun cas, on fait les actions à votre place. Et c'est ça, en aucun cas, nous, on vient avec vous, vous suivre pour prendre un caddie de course et vous dire, on ne fait pas vos menus non plus, on ne cuisine pas pour vous. C'est à vous d'être responsable de votre propre destinée. Et la spiritualité aujourd'hui, comme c'est devenu marketing, on pourrait croire que... En ayant ce mal-là autour du poignet, j'ai un super bijou qui va me truc, mes petits cristaux que je purifie tous les matins. Oui, ça peut. Ça existe. La nuit des temps, les cristaux, c'est pas les réseaux sociaux qui l'ont inventé. Mais attention à toujours un peu cet équilibre, ce bon sens en fait. Mais en fait, tout l'épisode, c'est que ça.
C'est ça. Non, c'était. Ça me fait penser vraiment à. À ce qu'on a dit précédemment, le coaching, parce que finalement, ça
dure... Je prends un biscuit. Isadora, ouvre-moi ça, s'il te plaît. Attendez, ça va faire un peu de grésillement. 2 secondes.
Marisa a faim, ça fait 1h30 qu'on parle. Ouvre les putains de cookies.
Un petit cookie de fabrication artisanale.
Non mais voilà, c'était vraiment... c'est hyper intéressant parce que Alors, ça se trouve, c'est pas du tout intéressant pour vous. Ça se trouve, vous êtes fait, vous êtes emmerdé à regarder, à écouter cet épisode. Mais je suis persuadée que ce soit pour l'entrepreneuriat, le coaching ou la maternité, la spiritualité, chacun d'entre nous s'est reconnu un petit peu. Je suis persuadée à une juste mesure. Hein. Par exemple, pour la parentalité positive, j'ai été à un extrême.
Ou même si les gens ne se reconnaissent pas, au moins ça pourra vous dire attention. Voyez les red flags, voyez les petits points d'alerte. Il y a des choses qui se voient. Il y a des choses tu vois, comme le culte de la personnalité. En général, tu vas sur un compte Instagram, t'as assez vite compris que la personne, c'est elle qui est mise en avant, tout le temps. Tu as vite compris. Mais je pense qu'il faut toujours faire le point sur sa vulnérabilité, sur qu'est-ce qu'on est en train de vivre, et faire le bon choix des bons coachs, parce qu'il y en a de très très bons. Il y a vraiment des gens dont le but est vraiment altruiste. Bien sûr qu'on veut gagner notre vie. On est tous là quand même. On n'a pas le choix. On a tous un métier. Et c'est encore mieux de faire un métier qu'on aime. Nous, on a un métier. On adore notre métier. Bien sûr que on fait payer parce que c'est ça la vie aussi. Mais il y a des gens qui vraiment apportent. J'ai toujours à Claudie d'ailleurs, tu devrais être coach, Claudie. Je dis souvent à Karine, tu devrais être coach, Karine. Mais elle déteste tellement, elles deux, le mot coach. Elles trouveront peut-être un jour une autre façon de... Parce qu'aujourd'hui, pour moi, le mot coach est vraiment connoté à ce mot business. Justement, c'est dommage parce qu'il y a vraiment des bons coachs qui se cachent derrière. Il y a vraiment des très bons coachs. Mais juste trouver le bon accompagnant, ça serait peut-être plutôt ça. Un accompagnant, peut-être un guide. Non, ça ferait trop aussi sectaire.
C'est lunaire, hein.
Ouais. Mais un accompagnant, quelqu'un en qui vous faites confiance, quelqu'un où vous avez l'impression que derrière, il y a vraiment un but altruiste et pas juste un but pécuniaire. Et puis aussi, pour toute spiritualité, etc., posez-vous la question, qu'est-ce que moi, je peux faire à mon échelle pour changer ce qui, moi, aujourd'hui, dans ma vie, ne me plaît pas? Il y a forcément quelque chose. C'est dur, c'est pas évident. Vous pouvez vous faire accompagner dans ce cas pour vous aider aussi. La réponse, vous l'avez en général. La réponse du moment, hein, parce que les autres réponses... Parce que moi, par exemple, là, j'ai décidé, j'ai pris le choix de me dire, OK, fin février, je quitte... Nantes, je ne veux plus vivre là, je veux rejoindre ma famille vers Angers. Je savais que ce que cela pouvait impliquer, j'ai choisi. C'est aussi être en accord avec son choix après. Et je pense qu'on sera tous heureux comme ça. Moi, en tout cas, je le suis déjà. Je sais que c'est la bonne décision. Et c'est juste faire les choix qui sont bons pour soi. Évidemment, en mettant personne en danger, personne, voilà. Mais juste, souvent, se choisir, c'est ce qui est le plus difficile. Parce que les autres...
Et je pense que se choisir et se faire confiance, c'est plus difficile. Et je peux vous assurer que se choisir et se faire confiance ne coûte pas plus de 3000 euros.
Non.
Moi, je suis persuadée que on peut se faire accompagner, on peut dépenser, bien évidemment... pour son bien-être mental et son bien-être physique et voilà, son bien-être en règle générale, bien sûr. Je doute que quand on casse son PEL pour son bien-être, qu'à la fin de ces 2 mois de coaching, 3 mois, 6 mois, peu importe, on se soit vraiment, enfin, j'ai trouvé la clé du bonheur. Parce que je pense qu'on la trouvera peut-être, cette clé. En fait, on en a trouvé plein, en fait, depuis la naissance. On a trouvé plein de clés, en fait.
Oui.
Et quand on va mourir, moi, je ne sais pas, je me dis, quand je vais avoir 90 ans, 95 ans, j'espère vivre jusque-là.
On aura un putain de trousseau de clés.
Et moi, je me dis, les clés que j'ai, je vais pouvoir les transmettre à mes petits-enfants. Comme quand on voit des personnes beaucoup plus âgées que soi, c'est leur sagesse qui nous fait du bien. C'est apprendre d'eux qui nous fait du bien. Parce qu'ils sont passés par nos étapes. On n'est pas les seuls au monde à avoir vécu ce qu'on vit aujourd'hui. Mais eux, ils ont découvert des petites choses. Même parfois, ce n'est pas que les personnes plus hyper âgées. Parfois, c'est des personnes qui sont juste plus âgées que nous. Par exemple, ça peut être une personne de 50 ans, 60 ans. Ma mère me donne des clés. Ma mère me donne tous les jours une nouvelle clé. Elle ne m'en a pas donné une unique. Tous les jours. Et un jour, moi aussi, à 90, 95, 100, 120 ans peut-être, j'aurai plein de clés que je pourrais donner sans demander 3000 euros pour faire du bien aux autres. Pour leur faire du bien, j'aurais peut-être écrit, je sais pas, un livre, des mémoires. Oui. Je sais pas, ça coûte 30 balles un livre. Arrêtons, ça coûte pas 3000 balles.
Ouais.
Donc,
faites attention à vous. Faites-vous confiance. Ayez du bon sens. Retournez
à votre bon sens et vivez. Franchement, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de vivre dès maintenant, de vivre une vie vraiment qui puisse vous épanouir en vous écoutant vous. Et n'ayez pas peur, quoi. Donc, vivez, vivons et vive à l'Algérie. Non, pardon.
N'importe quoi.
On dit pas vive à l'Algérie, parfois.
Je sais pas.
Bref. Allez, on s'arrête là parce que je sais pas combien de temps ça fait qu'on parle, mais c'est long.
1h33.
Ah, ça va.
Ça va.
Je crois qu'on allait attendre les 2h, là.
Non.
Ça va.
On peut continuer si tu veux parler
d'autre chose. Non, ça va. Ah, moi, tu sais, je peux parler. Hein. Bon, bref, on espère que ce podcast... cet épisode de podcast,
bien évidemment, j'ai failli me reprendre, mais la reprise avant, vous aura plu, vous aura fait un peu rire quand même, parce qu'on paraît comme d'habitude toujours survolté, mais
on n'a pas les réponses non plus.
On rigole, on n'a pas les réponses non plus. On en distille comme ça, par-ci, par-là, au fur et à mesure de
notre propre quête.
C'est
des conversations qu'on a, nous, dans notre vie privée, donc c'est aussi intéressant, parce que vous savez, les gens tout lisses qui vous font croire que leur vie est lisse, enfin, on a aussi des conversations privées, on a aussi des avis, on peut partager. Bon, c'est sûr que,
limite intention, ce podcast, il devrait s'appeler « Conversation avec ». Parce que ce genre de conversation, on aimerait les avoir avec d'autres personnes que nous deux.
Oui.
Et que vous preniez en fait comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'écrit là. Là, on converse avec vous.
Oui, conversation de la vraie vie.
Conversation de la vraie vie, ouais.
Peut-être ça devrait être ça. Dites-nous ce que vous en pensez d'ailleurs.
Voilà.
Sur les réseaux sociaux, sur Instagram.
Allez, on se dit à vendredi prochain pour un nouvel épisode.
En attendant, eh bien,
à plus.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.